Tout de suite, voici en direct le Libre Journal de Serge de Becquet. Je vous souhaite une excellente soirée. Je laisse les commandes de la technique à Franck. Il est tout juste 18h.
Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, et pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Becquet avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 29 mars de 18 à 21h, en différé jeudi 30 mars 2000, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la résistance, bonsoir, et naturellement pour l'Afrique du Nord, amis Moudjahidine, salam alaikum. Hein, faut se mettre, puisqu'on est écouté maintenant en Afrique du Nord. Grâce au bouquet.
Le bouquet, voilà. C'est beau.
C'est bouquet, c'est joli, le bouquet. C'est des fleurs, c'est... Voilà. Alors, je voudrais saluer tout spécialement, en ce début d'émission, ma petite femme qui est en train de faire des calculs éperdus, parce que faut qu'on trouve le moyen de payer. On a été condamné lourdement.
Vous avez été condamné.
Oh là là, ma pauvre.
Vous avez
petite.
Fait des vilaines choses.
Oh, vous pouvez pas savoir. On a dit que les Noirs couraient plus vite que les Blancs. Alors ça me coûte 60 000 francs, 6 millions de centimes. C'est-à-dire que, étant donné qu'on a à peu près 3 000 abonnés, c'est 20 francs par abonné.
Alors
vous imaginez, hein, comment ça va?
Moi, ça va, on va pouvoir vous les envoyer.
Ouais. Vous imaginez Paris Match, par exemple, qui a, je ne sais pas combien, un million d'abonnés ou de lecteurs. Ça veut dire qu'il aurait été condamné à 1 milliard de francs. Enfin, de centimes. Non, de francs, je ne sais plus. Enfin, bref, il aurait été condamné, en tout cas. Donc, alors, elle est en train de chercher comment on va faire pour sortir 60 000 francs d'une caisse où il y a 30 000 francs. Et même avec toute son habileté, je crois qu'elle va avoir du mal. Tout ça pour vous dire que Le Libre Journal, qui est un excellent journal imprimé, je le signale, parce qu'avec le bouquet satellite maintenant, on a des auditeurs partout. Donc il y a plein de gens qui ne savent pas que...
Ils peuvent s'abonner.
Quand on m'écoute une fois, on n'en a pas assez de m'écouter une fois par semaine, on peut me lire une fois tous les 10 jours, car c'est un décadaire.
Et je signale d'ailleurs... C'est un journal qui a beaucoup de pages, il y a beaucoup de choses à lire dedans, donc ça dure bien 10 jours.
Enfin, alors là, dis donc, il est copieux. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations dans le journal, je peux vous dire ça, les dessinateurs avec moi, ils gagnent pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, les journalistes non plus. Personne n'y gagne, sauf naturellement le MRAP et la LICRA. Alors eux, ça là-dessus, ils n'ont pas à se plaindre. Ça y va la manœuvre. Donc, si vous voulez vous abonner, pour lire un journal qui a besoin d'abonnés, c'est 4 Place France Lix.
Paris 10e.
Vous connaissez le prix de l'abonnement ?
Ce fut 600, mais maintenant c'est 700.
Ce fut 600, à l'époque on avait les moyens. Mais
dans la nuit des temps.
Maintenant que j'ai bouffé la cagnotte... Et puis au moins, vous lirez un journal dans lequel il y a moins de bêtises que d'autres. Il y en a, je vous rassure tout de suite, mais il y en a moins. Et un journal où on essaye de garder un certain contact avec la culture. Je lisais Le Monde en venant là dans le métro, et j'ai lu une très très belle chose dans Le Monde. Il cite la parole du Christ, alors c'est texto. Hein. La parole du Christ, jeter des marguerites aux chiens. Le Christ a dit « Ne jetez pas des marguerites aux chiens ». Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Je connais quand même un petit peu la Sainte Écriture. Et alors finalement, je me suis souvenu que, effectivement, notre Seigneur dit « Ne jetez pas margaritas ante porcos ». Margaritas, alors je l'indique pour les brillants adeptes de la nouvelle culture du monde. Margaritas en français, margaritas, c'est du latin. C'est pas du portugais, ça veut pas dire marguerite en portugais. C'est du latin et ça veut dire des perles. Margaritas, les perles. Bon. Margarita, la perle. Ante, devant. Porcos, ça veut pas dire le chien. Porcos, ça veut dire le cochon, comme son nom l'indique. Donc, ne donnez pas des perles aux pourceaux. C'est ça la phrase que le monde traduit par ne jetez pas des marguerites aux chiens. Ils avaient déjà dit, d'ailleurs, que, ils avaient déjà cité dans un article le fait que, je crois que ils avaient accusé présent d'avoir utilisé la célèbre phrase nazie, la vérité vous rendra libre. D'après Le Monde, c'était nazi. Ils confondaient avec la devise qui était devant l'entrée du camp de Auschwitz, et qui était Arbeit macht frei, le travail rend libre. Et non pas la vérité vous rendra libre, ça c'est pas dans Mein Kampf, c'est dans l'Évangile aussi, vous voyez, la vérité vous rendra libre. Donc quand on ne sait pas, on demande. Et on n'est pas obligé de lire Le Monde non plus, parce que si on veut apprendre autre chose que des bêtises, on peut lire le Libre Journal, 4 places France Lix, 700 francs. Le 600 francs si vous n'avez pas 700. Enfin, il vaut mieux envoyer.
Et si vous voulez, si vous ne l'avez jamais vu ce journal, si vous souhaitez le revoir.
C'est admirable.
Eh bien, vous envoyez simplement, quoi donc ?
Oh, des timbres.
Combien de timbres ?
Une dizaine de timbres à 3 francs.
Un petit carnet de timbres.
Une vingtaine de timbres à 1 franc 50. Une trentaine de timbres
à 1
franc.
Non, à 3 francs, c'est trop compliqué autrement. Oui. Donc,
10 timbres à 3 francs,
vous recevez. Un petit carnet de timbres, et vous recevez le journal.
Par retour.
Pour vous donner envie de vous abonner. Voilà.
Et dépêchez-vous, parce que la génération suivante ne saura plus lire. Vous avez vu que Lang a remplacé Allègre. Alors Allègre, il paraît qu'il a dit qu'il avait été viré comme un majordome.
C'est beau,
hein,
ça.
C'est beau, hein.
Ouais, ouais. Les amis de 40 ans, voilà, l'autre, c'était 30 ans.
Il a viré sa sœur, maintenant il vire Allègre. Qui est-ce qui était marié avec la sœur de l'autre ?
Je ne sais pas.
C'est Alain qui était marié avec la sœur de Jospin ?
Je ne sais pas.
C'est fou d'ailleurs. Et en tout cas, il a fait un très joli coup, Jospin, il faut dire, parce que il a complètement caramélisé deux redoutables. C'est-à-dire Fabius.
Vous pensez qu'ils sont caramélisés ?
Ah, complètement, là. Complètement. Vous savez, il y a une expression, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, c'est mon ami Éric Lebec, l'écrivain breton bien connu, qui l'utilise souvent, il dit c'est un bâton de poulailler. Vous savez pourquoi ça s'appelle un bâton de poulailler ? Vous voyez ce que ça peut être, un bâton de poulailler ?
Je vois tout à fait.
Un morceau de bois qui a séjourné longtemps dans un poulailler, vous imaginez ? Voilà. Alors le ministère des Finances aujourd'hui, pour Fabius, d'abord c'est une rétrogradation formidable, Fabius il était le plus jeune premier ministre de France. Et il se retrouve le plus, je sais pas quoi d'ailleurs, ministre des Finances, de remplacement. Quant à Lang, il est déjà passé à l'éducnat, et il y revient, et la première réaction des syndicats de l'éducnat, ça a été de dire, oui, bah, étant donné ce qu'il a fait la première fois, on peut pas dire qu'on est content de le voir une deuxième, mais on va s'occuper sérieusement de lui, et pour commencer, on déclenche une grève. Donc ils sont. Hein,
quand est-ce qu'ils font une grève? Pour quand la nouvelle?
Bah, dès qu'ils auront fini la présente, là. Il faut les laisser. Voilà. Fabius Lang. On a l'impression de revenir 20 ans en arrière. Vous allez voir que la momie de Toutankhamon va sortir du tombeau et va revenir. Ça va être horrible.
Il ne pense qu'à lui.
Voilà. Alors oui, j'allais dire, pour les gens qui n'aiment pas cette émission, je le signale, elle va durer 3 heures. Donc il vaut mieux arrêter tout de suite et aller écouter de la musique ou acheter un journal et puis le lire. Hein. Parce que ça va durer 3 heures. Et pendant ces 3 heures, vous allez entendre Gérard Weidlich tout à l'heure. Vous allez entendre Jean-Louis Philippe. Jean-Louis Philippe qui est voyant. Pourquoi il est là ce soir? Bon, il est là parce que d'abord j'avais envie de l'inviter. Et puis ensuite parce que il y a quelques mois il avait dit, quand on lui a dit alors le satellite, quel des auditeurs de Radio Côte-d'Azur, ils ont dit, vous qui êtes voyant, vous le voyez le satellite? Il a dit oui, pour le printemps 2000. Alors, printemps 2000, premier jour du printemps 2000, pouf, satellite. Donc rien que ça, ça mérite qu'on lui donne la parole. Ensuite, je recevrai M. Bernard Jacquelin, qui est le président du Cercle Gaulois. Alors, je vous rassure tout de suite, ou je vous déçois tout de suite, on va pas raconter des histoires gauloises. Ça n'a rien à voir. Et puis, ensuite, Michel Leguay, qui a écrit un livre dont je vous recommande tout de suite la lecture, parce que c'est extraordinaire. Il a vécu une aventure tout à fait extraordinaire. Il a été l'homme qui a inventé le music hall aux armées en Algérie. Et il s'est baladé, on va en parler tout à l'heure, en pleine guerre d'Algérie, avec des camions chargés de décors, allant de camp militaire en camp militaire, avec de temps en temps des félous qui jetaient des bombes dans la salle, enfin des choses, une vie extraordinairement intéressante. Et déjà, ça c'est passionnant, mais ce qui est drôle comme tout, c'est que je suis à peu près certain que c'est le seul artiste et producteur de spectacle au monde qui doit sa carrière au général Salan. C'est quand même original, non?
Eh oui.
Voilà. Pardon. Et en deuxième partie d'émission, je recevrai François Planté et le docteur Planté et Nicolas Bonnal. Et nous parlerons... Quoi?
Je dis, oh, c'est un haut d'admiration.
Ah bon, ouais, c'est bien, j'espère. Et nous, ça sera, j'espère qu'on va pas jeter des marguerites aux chiens. Hein. et nous parlerons du retour de Freud. Voilà. Ah, je voudrais signaler aussi une chose, c'est que il reste encore quelques exemplaires du livre de Maud Marin, Un procès en banlieue. Si vous ne l'avez pas commandé, commandez-le, c'est tout à fait d'actualité. Vous l'avez lu, vous?
Non, j'ai lu Pitié pour les victimes.
Alors, Pitié pour les victimes, c'est le bouquin qui a en quelque sorte suscité l'affaire que Maud raconte dans Un procès en banlieue. C'est un procès stalinien qui lui a été fait. Elle raconte comment elle a été chassée du barreau et réduite à la misère, littéralement. Et si vous voulez ce livre, vous pouvez vous le procurer en envoyant 50 francs au Libre Journal. Je signale que, je le dis pour les mauvaises langues, c'est pas de la publicité pour nous, parce que la totalité de ces 50 francs sera remise à Maud Marin, qui en a vraiment besoin. Donc si vous voulez acheter ce livre, vous envoyez 50 francs à 4 places France Litz. Si vous faites un chèque, vous le faites impérativement à l'ordre de Maud Marin, parce que sinon ça passe par notre comptabilité, c'est très compliqué. Voilà, 50 francs, pas cher. Monsieur Weidlich, vous êtes là?
Oui, bonsoir. Ah,
bonsoir Gérard Weidlich, comment allez-vous?
Ah, écoutez, ça va très bien.
Vous êtes le président du CIRIS, qui est le... Bah, dites-moi ce que c'est, parce que moi j'arrive jamais à me rappeler.
CIRIS, c'est le Centre d'Innovation, de Recherche et d'Information Scientifique, une association de loi 1901.
Qui assure la défense de la mémoire et des travaux.
Oui,
du professeur Beljanski.
Professeur Mirko Beljanski, c'est un incroyable scandale d'État qui reste naturellement médiatiquement étouffé avec une grande force par la section presse des renseignements généraux chargée officiellement de manipuler l'agence France Presse et les journalistes qui afin de cacher les scandales d'État, les crimes institutionnels, les délits de justice et dérives de tout genre. Vous connaissez ça, vous?
Ah, pas du tout. Moi, je pense pas qu'on peut manipuler l'agence France Presse. Je peux pas croire une chose pareille.
Écoutez, à part Radio Courtoisie et quelques exceptions, il est clair que la presse française indépendante est tout à fait moribonde, voire inexistante. Et on peut résumer l'objet du scandale en disant tout simplement que des traitements naturels, non toxiques, contre cancer, sida, maladie auto-immune, sclérose en plaques, etc., existent et qu'ils agissent seul ou en synergie avec les traitements conventionnels de chimio ou de radiothérapie en supprimant les effets secondaires connus de ces derniers. Alors il y a plusieurs milliers de malades, au nom de leur liberté thérapeutique, qui ont choisi d'utiliser les produits Belgianski que l'on se procure actuellement aux USA uniquement, je précise bien uniquement, et par reconnaissance et citoyenneté, des malades ont accepté de témoigner à visage découvert dans notre revue associative Dialogue que vous connaissez, que l'on peut se procurer en envoyant tout simplement un carnet de dithymbes à 3 francs à l'association Ciris, dont Serge, je vous laisse le soin de donner des coordonnées.
Voilà. On donnera ça tout à l'heure.
Oui.
Mais,
alors,
mais
tout cela
c'est moins
est très,
pour...
très sérieux, je le répète, et moi-même, atteint d'un sida déclaré depuis donc maintenant 15 ans, je dis bien déclaré, je devrais être mort depuis fin 91, selon plusieurs spécialistes. Et j'ai bien entendu les preuves en main de ce que j'avance, mais le temps ne me permet pas d'expliquer ce soir davantage, puisque nous avons convenu ensemble d'évoquer tous les mensonges qui tournent autour de la catastrophe de l'Erika, et surtout de proposer une solution constructive devant la détresse et la psychose des bénévoles qui ont été, dirons-nous, criminellement exploités au nom du mot solidarité.
Alors ça, c'est une affaire, effectivement, c'est vous qui avez attiré mon attention là-dessus, hein, je le précise. Cette affaire de l'Erika, c'est quand même quelque chose de tout à fait énorme, parce que c'est une fois de plus un mensonge d'État, avec la complicité de tous les médias, ou à peu près, puisque le Libre Journal a été le tout premier à citer les travaux du laboratoire qui a découvert que le produit transporté dans l'Erika n'était pas du tout du pétrole normal, mais était un produit particulièrement cancérigène. Et ce laboratoire qui avait trouvé ça n'arrivait pas à faire circuler l'information. Et il a fallu vraiment qu'il déploie des trésors d'astuces et d'insistance pour parvenir à percer le mur du silence qui avait été installé autour d'eux. Est-ce que vous nous avez quittés ?
Non, du tout, tout. Mais donc, je vous laissais expliquer cela.
Voilà.
Mais vous voyez, moi je m'explique en gros, pour rafraîchir un peu la mémoire à vos auditeurs, que ce soit le scandale du sang empoisonné. Vous souvenez bien, responsable mais pas coupable, puis après le bouquet final de la formule historique, coupable mais pas condamnable. Que ce soit le scandale de l'amiante et des nombreuses victimes de cancer, que ce soit les malades victimes des rayons ionisants, sous toutes leurs formes, les cancers du cerveau dus à l'utilisation des téléphones portables, je vous signale dont les confirmations se font de plus en plus nombreuses en provenance des États-Unis, et je vous signale qu'à ce propos, le PAO Pereira de Belgianski, qui passe la barrière méningée, est très efficace contre les cancers du cerveau. Que ce soit cette exposition des bénévoles au pétrole de l'Erika, qui a été classée selon l'article de Vérité Santé Pratique numéro 54 que je vous ai envoyé, comme fuel NO2, qui sont des déchets industriels spéciaux hautement cancérigènes, dans tous les cas de figure, la situation est la même. C'est-à-dire qu'au nom du profit, des responsables ont commis des fautes très graves et sont devenus, dirons-nous, des assassins. Dans cette situation incompréhensible et angoissante pour les victimes, celles-ci, dans tous les cas de figure, ne demandaient pas des indemnités, mais tout simplement la santé. Alors dans le scandale du sang, au nom de la raison d'État, on a fait traîner, la majorité des témoins sont morts, et cette mascarade de procès est une honte pour notre République. Des rescapés, je vous signale, existent bien, et en général, ceux qui sont en parfaite santé, comme Francine Bocquet, ont utilisé les produits Belgianski. Alors si l'État, qui connaît très bien l'intérêt des produits Belgianski, avait accepté de payer aux malades du sang les produits Belgianski, on aurait pu considérer qu'il réparait ainsi ses bavures en sauvant le maximum de victimes. Oui, mais écoutez, il y a un mais, parce que c'était la reconnaissance des produits Belgianski, et les lobbies pharmaceutiques pour lesquels ces produits ne sont pas rentables ont manipulé et corrompu les décideurs. C'est tout à fait le même schéma pour l'amiante ou le pétrole de l'Erika. Et personnellement, moi je suggère que les représentants des victimes de l'Erika me contactent par écrit, parce que j'ai cru entendre qu'un comité de défense des bénévoles de la Marée Noire s'était créé, et il faudrait dans un premier temps placer sous surveillance médicale les bénévoles qui sont intervenus pour nettoyer les plages. Alors moi je pense qu'un examen tous les 6 mois ça devrait suffire, et ensuite, bien entendu, cet examen devrait être pris en charge par Total Fina. Mais évidemment, Serge, c'est clair que les experts devraient être indépendants pour éviter la corruption et des résultats des analyses truquées, des choses de ce genre. On a tellement l'habitude. Alors si on détecte un cancer naissant, eh bien toujours Total Fina, n'est-ce pas, pourrait réparer ses bavures en payant les traitements Beljanski aux victimes. Traitements qui auraient de très grandes chances de réussir et qui n'est pas contraignant puisqu'il s'agit simplement d'absorber quelques gélules par jour, d'extraits naturels de plantes qui sont efficaces contre le cancer. Alors plus tôt le diagnostic sera fait, plus tôt il y aura de grandes chances de réussite. Et moi je souhaite que le comité de défense de ces malades soit fort et ferme face au, ce qu'on peut dire, le pot de fer. Hein. Ça va être le combat du pot de fer contre pot de terre. Alors Serge, vous voyez, pour conclure ma brève intervention de ce soir, à cause des nombreux sujets que vous avez à traiter dans votre émission, je voudrais vous dire que nous préparons déjà à un éventuel procès qui devrait avoir lieu à l'automne prochain.
C'est la suite de la fameuse descente.
Je n'ai pas de précision à vous donner pour l'instant, mais nous avons bien sûr l'espoir, nous, les malades, les anciens malades, guéris ou en rémission, avec une forme exceptionnelle et une dignité humaine très appréciable, nous, comme on nous appelle les survivants illégaux, nous avons bon espoir de pouvoir nous exprimer en témoignant. Je vous rappelle quand même que M. Jean Le Guen, agriculteur breton à la retraite, vous avez vu sur Dialogue, a 17 ans de recul par rapport à un cancer avec atteinte du pancréas. Et il en est guéri. Il ne prend plus aucun traitement depuis une dizaine d'années. Alors normalement, en 2 mois, ce type de cancer foudroyant vous fait mourir. Alors tout ça c'est impressionnant, mais c'est vrai. Et vous pouvez le vérifier auprès des témoins dont les mentions, dont les coordonnées sont dans notre revue Dialogue. Et vous savez très bien, vous avez même vu les témoignages des animaux tels que les chats atteints de leucose féline.
Pas les témoignages des animaux, les témoignages des maîtres.
Comment ?
Pas les témoignages des animaux, les témoignages des maîtres.
Oui, tout à fait, non. Nous sommes bien d'accord. Mais les animaux sont extrêmement heureux de pouvoir revivre.
On n'en sait rien, on peut le supposer.
Pouvoir témoigner, mais ceci n'est pas évident dans notre démocratie truquée dans laquelle même la justice est manipulée.
Alors là, mon cher Gérard, je suis obligé de vous interrompre. Vous comprenez, si vous commencez à dire du mal de la démocratie, vous comprenez bien que dans cette émission, c'est pas possible.
Oui, mais vous savez, quand on voit les Verts qui montent au gouvernement, maintenant ils sont renforts à deux, et qu'en fait ce sont ces gens-là qui devraient défendre des sujets comme le nôtre, mais aujourd'hui les Verts sont devenus roses.
Oui, ça fait... c'est pas d'aujourd'hui.
Mais oui, Serge, il faut pas être dupe.
Alors,
figurez-vous, Serge, que le 27 mars dernier, comme par hasard, c'était le jour anniversaire du regretté chercheur, trouveur Mirko Beljanski, dont nous sont les concepts, nous avons appris que la Commission européenne des droits de l'homme avait accueilli la requête présentée en août 98 sur le fait que le gouvernement français n'avait pas accordé un jugement dans un délai raisonnable. Alors cette commission a demandé à notre gouvernement de se justifier sur ce point avant la fin du mois de mai 2000. Alors nous suivons tout cela de près et nous viendrons vous demander, Serge, une émission spéciale en direct sur vos ondes de Radio Courtoisie, car votre radio, écoutez, on le sait maintenant depuis le nombre de fois que nous nous exprimons sur le dessus et nous vous en remercions, défend la vérité, les libertés, les droits de l'homme. Alors nous viendrons avec des journalistes libres, nos avocats, Madame Beljanski qui n'acceptera jamais que l'on salisse la mémoire de son mari, et bien sûr des médecins, des scientifiques, des témoins, etc. Alors je ne sais pas si votre studio sera assez grand, mais on poussera les murs.
Mais d'ici là, on aura déménagé.
Et il faudra pour cela mobiliser tous vos auditeurs à l'occasion de ce procès du siècle qui sera une véritable affaire Dreyfus de la recherche médicale française. Et mon mot de la fin sera de dire que devant la multitude de tous ces scandales, le sang contaminé, l'amiante, les hormones de croissance, l'ERICA, les produits Beljanski, etc., que le pouvoir de l'argent cherche à banaliser, il est de plus en plus urgent et nécessaire de créer un tribunal international pour sanctionner enfin les crimes économiques contre l'humanité.
Merci Gérard. Une question, avez-vous le bouquet satellite TPS ?
Non, je ne sais pas.
Alors, il faut vous le procurer parce
oui,
que...
Non, mais j'ai entendu.
Voilà,
j'ai
maintenant,
entendu,
vous pouvez écouter Radio Courtoisie sur TPS.
Il va falloir que je fasse le nécessaire pour qu'ici, de l'île d'Oléron, je puisse...
Parce que même l'île d'Oléron reçoit TPS.
Oui.
Même toute la France, l'Europe et même l'Afrique.
Ah oui, non, mais c'est grandiose.
Michel Le Guay qui vit au Maroc, il va pouvoir nous écouter.
C'est une grande victoire pour vous, pour la démocratie, parce que moi, je tiens à vous dire et à remercier tous vos auditeurs tous les jours, les bénévoles ouvrent des quantités de courriers et ce sont encore pour à peu près 80% de courriers que nous recevons des gens qui prennent en référence des émissions de Radio Courtoisie. Alors il y a tout un système d'échange de cassettes audio parce que on a fait de nombreuses émissions très complètes en direct sur vos ondes et ces gens se copient les cassettes, se les passent et c'est pour cette raison que le message passe et on ne pourra plus freiner.
Vous savez quel a été le précédent le précédent historique du rôle important des cassettes audio?
Non.
C'était l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini. Voilà, merci Gérard.
Alors, merci,
je rappelle l'adresse du CIRIS, ah oui. C-I-R-I-S.
C-R-I-S.
Qu'est-ce que j'ai dit? C-I-R-I-S. Vous ne connaissez pas la lettre RIS. C-I-R-I-S, 16 chemin de Saint-James.
James,
J-A-M-E-S. James, on dit pas James.
Pourquoi on dit pas James?
Parce que c'est un nom français.
17 550 Dolus, D-O-L-U-S, Doléron sur l'île Doléron. Alors il suffit simplement de mettre un carnet de 10 timbres dans une enveloppe, de mettre sa carte de visite, son adresse, un petit mot pour demander un dossier complet d'informations. Alors je dis bien, pourquoi de bien mettre son adresse? Parce que figurez-vous Serge, nous avons encore deux courriers en souffrance de personnes qui ont envoyé des timbres et qui n'ont pas mis leur adresse.
Il faut leur administrer des gélules.
Après, vous savez, même sur mon répondeur, j'ai un message là d'une dame, je ne peux pas l'identifier puisqu'elle ne met pas son numéro de téléphone.
Elle doit vous traiter de voleur en plus.
Non, oui, elle dit, j'ai envoyé 10 timbres, je n'ai pas reçu de dossier, j'espère que ce n'est pas...
une arnaque.
Une arnaque, voilà, c'est ça. Et donc, moi j'ai deux lettres que je ne peux pas honorer, hélas. Et nous en envoyons tous les jours à peu près une cinquantaine.
Je crois que tous nos amis qui sont autour de cette table connaissent ce genre de problème. Enfin, tous ceux qui ont affronté la question du courrier.
Oui.
Donc,
voilà.
Je dis à la dame qui vous a envoyé des timbres, envoyez le reçu des timbres, parce qu'il faut quand même prouver que c'est bien vous qui avez envoyé des timbres. Voilà, merci Gérard.
Nous faisons les choses très sérieusement, et puis que Victoria, en fin d'émission, rappelle bien comment faire pour avoir un dossier complet d'informations.
Promis, on va le faire. À bientôt.
Bonsoir, à bientôt.
Alors, donc, c'est CIRIS, C-I-R-I-S, 16 chemin de Saint-James, 17 550, Dolus, Doléron.
Voilà.
On aurait dû le faire à deux, vous savez, comme dans les vieilles
audio
pubs.
Oui. Tiens, dites-nous donc que nous sommes sur Radio Courtoisie.
Ah oui, on est sur Radio Courtoisie.
C'est tout.
Voilà,
Radio Suffisie, ça suffit à soi-même.
Jean-Louis Philippe, donc vous aviez pronostiqué.
Oui, Serge.
Vous êtes voyant.
Eh oui.
Vous êtes voyant, clairvoyant, on disait dans le temps, maintenant on dit voyant, et vous avez pronostiqué l'attribution du satellite à Radio Courtoisie, mais en donnant la date en plus.
Oui.
Printemps
2000. À partir du printemps 2000.
C'est bien.
Et c'est très bien lorsque les choses se réalisent en plus dans leur temps. C'est
oui,
parfait.
Il vaut mieux. Voilà. Pour un voyant, il vaut mieux d'enchaîner les choses qui se réalisent.
Exactement.
Pour la pub, c'est quand même meilleur. Comment, alors, bon, maintenant la question qu'on a dû vous poser 150 000 fois, mais qui, je crois que c'est une question qui intéresse tout le monde. Comment, quand on vous pose la question, alors, est-ce qu'on va la voir, ce satellite? Qu'est-ce qui vous dit? Est-ce que vous voyez apparaître printemps 2000, un cerisier avec l'an 2000? Est-ce qu'une voix secrète vous dit printemps 2000? Comment ça marche?
Ah ben, ça marche par des impressions, des sensations. Je peux voir dans mon esprit, c'est vrai, des chiffres, des périodes, parce que je travaille beaucoup sur le temps. Et c'est un travail très difficile et très fastidieux. Et il est vrai que tout fonctionne par une hyper-hypersensitivité. Voilà. Alors ensuite, il faut décoder, mais ça, c'est très très rapide dans l'esprit de l'individu, et en l'occurrence donc moi-même. Mais c'est vrai que ça se passe comme ça. Et lorsque l'on m'a posé cette question, eh bien, vous tiltez très rapidement. Il y a quelque chose qui fait tilt dans votre esprit, et les choses viennent, les informations viennent.
C'est le voyant flipper.
Voilà, c'est le voyant flipper.
Mais vous êtes né flipper ou vous l'êtes devenu
Moi, je crois que je suis né flipper. Oui.
Ah, ouais.
Oui.
Quand vous étiez petit garçon, vous aviez des trucs comme ça.
Ouais, quand j'étais enfant...
Quand votre père allait vous coller une fessée, vous le saviez deux jours plus tôt.
Ah non, mais par contre, j'ai beaucoup perturbé mes parents, parce que la nuit, je faisais plus ou moins des rêves éveillés, où je ressentais beaucoup, beaucoup de choses. Mes parents, bien sûr, eux, pas trop conscients de ce qui se passait, puis moi-même non plus, d'ailleurs. Et il est clair que ça n'a pas toujours été aussi facile que ça à vivre. Voilà.
Mais comment ça se passe? Comment ça se passait?
Ça se passait que je me réveillais, par exemple. Mais ça se passait toujours la nuit. Hein. Je me réveillais et je ressentais des présences. Je me suis même réveillé à deux reprises par rapport à la présence d'insectes. Et c'est une certitude, où je ressentais des araignées, admettons, hein, et en l'occurrence, c'était cela.
Mais ça, on connaît, ça s'appelle le délirium tremens.
Ah non, pas à mon âge encore, non, 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 non. À moins que je sois tombé dans la potion magique, mais non. Mais il est clair que j'avais ressenti des choses comme telles, mais sinon, la nuit, je ressentais des formes de présence, j'entendais plus ou moins certaines choses, et j'avoue que c'était pas évident.
Et voilà. C'est ce que vous rapprochez, ça, cette capacité, donc, de sentir des ambiances, d'en tirer des vues sur, non pas sur la comète, mais sur l'avenir. Qu'est-ce que c'est? C'est de la médiumnité? C'est de la télépathie?
Là, vous faites bien de le soulever, parce qu'il y a quand même une grande différence. Un télépathe, c'est une personne qui va connecter vos pensées, éventuellement vos désirs, mais ce n'est pas forcément le cas réel ensuite dans l'avenir. Et là, c'est assez dangereux, parce que vous avez des personnes qui se disent être voyants, parce qu'elles vont ressentir des choses que vous désirez. Mais ensuite, lorsque le temps arrive et que les échéances aussi se prononcent, bon, on peut très bien avoir des décalages dans le temps, ça c'est très clair, mais lorsque rien ne se positionne vraiment et qu'ensuite, avec le recul, vous apercevez que l'individu a surtout ressenti votre passé, là, c'est un peu fâcheux. Là, donc, nous avons des cas de télépathie.
Il y a des gens pour lesquels ça peut être très embêtant. Si on sait leur passé.
Oui, ça c'est très clair. Oui, tout à fait.
Langue, par exemple, ça peut être embêtant.
Et ensuite, il est vrai qu'au niveau de la médiumnité, là, ce sont des personnes qui se sont connectées avec les entités, c'est-à-dire qu'on peut très bien se connecter sur votre grand-mère, arrière-grand-mère, etc.
Je souhaite bien du plaisir en voyant qu'il va se connecter sur ma grand-mère, il va pas être déçu du voyage. Mais, sur une de mes grand-mères, au moins. Ce que je comprends, ce que je ne comprends pas très bien, c'est comment vous qui êtes croyant, vous êtes catholique, pratiquant.
Oui, tout à fait.
Vous me parlez d'entité, vous me parlez de connexion sur la grand-mère.
Serge, moi je ne suis pas médium, c'est-à-dire je ne suis pas quelqu'un qui va déranger les entités. Déjà, il faut faire très attention, parce que vous pouvez très bien vous retrouver avec des énergies du bas astral, donc des énergies qui peuvent être relativement négatives. Et sinon, si vous êtes connecté dans le positif, tant mieux. Par contre...
C'est comme l'électricité.
Exactement.
C'est dans le positif.
Le yin et le yang. Et il est vrai que, par contre, non, dans ce qui me concerne, je suis branché dans une énergie qui me permet de ressentir, de voir des choses. Et comme l'ont été, bon, je ne veux pas dire que je suis un saint, hein, mais comme l'ont été certains grands saints avec une certaine renommée.
Mais... est-ce que vous vous en servez pour vous? Par exemple, un truc idiot, mais vous vous mettez à table, est-ce que vous dites, bon là, non, il faut pas que j'aille à ce déjeuner, ou il faut pas que je mange ça parce que c'est, en ce moment, ça correspond pas à ma...
Alors,
est-ce que ça va jusque là?
Mais vous savez très bien, Serge, que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Donc, il est clair que moi, en matière de voyance, en ce qui me concerne, si véritablement j'ai un don qui me permet eh bien, de voir pour les autres, c'est peut-être pas forcément pour moi-même. Par contre, dire que par moment j'aurai certains messages personnels, certaines prémonitions par rapport à des états de fait, ça peut être un dîner, ça peut être sur les gens, etc. Ça, c'est très clair qu'à ce moment-là, j'essaye de les écouter.
Vous connaissez l'histoire du type qui va voir une voyante, et il frappe, et il entend qui est là, et il s'en va, bien entendu.
Bien sûr.
Ça vous est arrivé, ça, de perdre un client?
J'essaie de pas rentrer dans ce schéma. Non, non, non.
Alors, question grave là, parce que très très souvent, on voit le grand voyant venir de la forêt et qui fait l'exorcisme aussi. Est-ce que vous faites l'exorcisme aussi?
Ah non, non. Là, voyez-vous, je crois justement que chaque individu a une spécificité. Vous savez, quand vous commencez à rentrer dans un cabinet ou un lieu où on commence à vous dire « je suis numérologue, je suis tarologue, je suis voyant, je suis exorciseur, etc. », là, je vous dis, ça sent mauvais. Il vaut mieux prendre son recul. Et déjà une, par rapport à l'exorcisme...
Tarologue, qu'est-ce que c'est? Il s'occupe des tarés ou...
Non.
Serge, pousse.
Ah, j'arrête?
Oui.
Bon, voilà.
Non, le tarologue, comme vous le savez très bien, Serge, que bon, c'est simplement en rapport avec le tarot et pas le tarot avec lequel nous jouons une partie de cartes, mais tout simplement un tarot beaucoup plus divinatoire et qui permet, en étant un petit peu initié, de pouvoir décrypter au niveau du symbolisme certaines choses. Alors après, on passe dans le côté divinatoire lorsqu'on en a les facultés. Mais l'exorcisme, c'est encore autre chose.
Mais il n'y a pas un danger de... Moi, je vois les gens qui font là, j'arrête de plaisanter, mais les gens qui utilisent les tarots, ou les gens qui utilisent le yiking, ou les gens qui manipulent des objets pour essayer d'avoir des réponses. On ne sait pas si ça vient du bas astral ou du haut astral,
c'est
pas
fait.
Mais c'est dangereux de tripoter.
Je vais vous dire, Serge, c'est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que je trouve qu'actuellement, de permettre de faire véhiculer des outils, parce que ce sont des outils, comme ça en libre service, et que tout le monde puisse s'y donner. Donc on a des gens qui jouent à ce qu'on appelle, entre guillemets, l'apprenti sorcier. Et là, j'avoue que c'est dangereux, parce que vous savez, dans le film L'Exorcisme, justement, au départ, vous avez une petite fille qui joue avec une forme de houlette, qui est en vérité un outil ésotérique. Et derrière tout ceci, donc elle attire des ondes, et en attirant des ondes, après dans le film et la fiction du film, bon, elle est complètement envoûtée par l'esprit démoniaque. Mais ceci dit, il faut savoir que pour tout individu qui n'est pas véritablement initié et qui se lance dans cette forme d'apprentissage, ben, il faut dire que malgré tout, bon, vous êtes un peu poreux comme une éponge, hein, et on s'imbibe d'ondes, d'énergie, etc., et on ne sait pas à ce moment-là ce qui peut véritablement se passer. C'est pour ça que vous avez des gens, d'ailleurs, qui déchaînent chez eux ensuite certaines énergies. Vous avez les murs qui craquent, les meubles qui craquent, etc., enfin, des choses qui se passent un peu bizarres, mais il faut savoir que ça se passe comme tel. Et c'est vrai que c'est un danger.
Et quel est le lien entre ce que vous faites et la parapsychologie?
Alors, la parapsychologie et un parapsychologue, c'est toute une série de techniques, une forme d'apprentissage par rapport à l'éveil d'une certaine sensibilité, sensitivité, réceptivité des choses. Donc, il y a toute une forme d'exercice qui vous permet éventuellement de développer cette sensibilité, etc. Mais est-ce qu'un parapsychologue véritablement est un voyant? Parce que moi, je trouve qu'il y a quand même une différence entre un réel apprentissage et un don et une faculté que vous avez reçu véritablement à votre naissance. Vous avez des gens qui naissent comme un Mozart et qui ont vraiment des facultés. Et à côté, vous avez des gens qui naissent avec la clairvoyance, avec en même temps d'autres possibilités, mais qui passeront pas forcément par une formation de parapsychologue.
Voilà, donc ça veut dire que quand vous sentez, enfin, si un enfant, un jeune homme perçoit que, à travers l'expérience qu'il a eu étant petit garçon, etc., qu'il est quand même porté à avoir des sensations, des impressions, des visions. Alors, est-ce qu'un voyant a des visions? Il faudra qu'on réponde à cette question aussi.
Alors,
mais avant, quand il se doute de quelque chose, est-ce que il va utiliser ce don comme ça, ou est-ce qu'il y a un apprentissage, est-ce qu'il y a une forme d'apprentissage?
Alors, vous savez, je vais vous raconter une histoire qui est un peu bizarre. À chaque fois que j'ai eu la possibilité de rencontrer des gens qui pouvaient véritablement m'initier, par exemple, au tarot, à chaque fois, il y a eu un problème, à chaque fois, le rendez-vous n'a pas pu se conclure véritablement, et à chaque fois, par d'autres biais, j'ai eu les éléments nécessaires pour me permettre d'aller dans une évolution. Un jour, je devais rencontrer Jodorowsky, qui est un grand maître du tarot. Ça ne s'est pas fait pour des raisons très curieuses.
C'est le cinéaste ?
Il est cinéaste, oui, en même temps. Et par contre, par un autre biais, j'ai une personne qui m'avait entendu sur les ondes il y a quelques années en arrière, qui m'a dit, bah, écoutez, tenez, dans mon déménagement, j'ai retrouvé ces feuillets, qui sont donc des clés symboliques que j'ai pu prendre lors de cours de Jodorowsky. Je pense que pour vous, ça sera très bien, vous en ferez bon usage. Oui. Voyez-vous ? Oui. Alors là, j'ai eu des prises de conscience, et c'est vrai que bon, les choses se sont passées ainsi.
Vous parliez tout à l'heure de clairvoyance. Il y a une autre expression qu'on entend de plus en plus employée, c'est clairaudience. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
La clairaudience, eh bien, écoutez, le portrait type, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc était clairaudiente, c'est-à-dire c'est le fait d'entendre des voix. Alors, bien sûr, par rapport à ceci, et d'ailleurs je l'ai rencontré à partir de pas mal de mes consultants, des gens qui, justement, vivent ce phénomène et pensent dans un premier temps qu'ils sont fous, comme vous avez des gens qui ont la clairvoyance, c'est-à-dire des sensations de voir des choses également, ou de les pressentir, et donc ça les effraie. Et la clairaudience, c'est simplement le fait d'entendre avec l'au-delà, ça peut être aussi votre ange gardien, parce que ça, j'y crois profondément. Et il est clair que là aussi, ce sont des messages.
Est-ce que vous voulez dire que, en fait, les anges gardiens ou les anges ou les saints, ou bon, pour dans le cas de Jeanne d'Arc, sont disposés à parler à tout le monde, mais qu'il n'y a que certains individus qui les entendent.
Tout à fait. Pouvoir parler à tout le monde, oui et non. Parce que là encore, c'est une histoire d'individus, de terrain de l'individu, et peut-être aussi, lorsqu'on y croit, eh bien, Jeanne d'Arc, je pense que c'est un être qui a été choisi à la base.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Bon, alors, vous comprenez, mais tout le monde n'est pas choisi non plus.
Ce que je veux dire, c'est que tout ange gardien, tout homme a son ange gardien, donc tout ange gardien est amené à parler à la personne qui est chargée de garder.
Ah oui, mais
à
alors
parler là, ou à se manifester d'une manière ou d'une autre.
Oui, mais alors là, Serge, nous sommes dans les énergies subtiles, et puis vous savez ce que c'est à notre époque, je crois que plus on peut écraser quelque part les énergies subtiles, et plus on reste dans quelque chose de très cartésien, de très terre-à-terre, et mieux on est. Alors qu'en vérité, plus on est dans cette élévation de l'énergie subtile, et de certains éléments qui s'y rapportent d'ailleurs, et plus je pense qu'on est dans l'élévation de l'individu, de l'esprit et de l'âme. Alors ça, c'est pas évident, parce que c'est vrai que tout ça, c'est très codé. Vous allez par moments ressentir une présence lumineuse à côté de vous, et ça, je pense que c'est la figuration de l'ange gardien. Maintenant, vous allez avoir un message un jour, très curieux, comme ça peut arriver à certaines personnes, sur votre répondeur, ou simplement, donc, vous ouvrez un bouquin, il y a quelque chose qui pense, enfin, que l'on pense pouvoir nous parler véritablement, et il est vrai que par rapport à ceci, je pense que ce sont, pour moi, eh bien, des clés, des messages qui nous sont envoyés. Ça peut être un voisin qu'on va rencontrer qui nous dira bonjour, qui nous dira d'un seul coup une phrase, et dans cette phrase, eh bien, il y a quelque chose qu'on peut ressentir. Alors, je ne vous dis pas non plus que c'est systématique, mais ces témoignages et ces repères, j'y crois beaucoup.
Et vous ne croyez pas que c'est une forme d'irrespect de mélanger les phénomènes religieux comme les charismes de Don Bosco ou de Padre Pio, ou de Saint Vincent de Paul ou du curé d'Ars, bah surtout du curé d'Ars, ou de Jeanne d'Arc, avec des manifestations comme celles que vous évoquez. Vous ne croyez pas qu'il y a une espèce d'irrespect
Non, parce que tout dépend dans quel canal vous êtes véritablement connecté. Bah, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai une foi, et puis je peux dire, j'ai une foi profonde, j'ai un ami prêtre qui me connaît depuis l'âge de mes 14 ans, et je peux vous dire que j'ai eu un certain chemin spirituel à ce niveau-ci, et moi, mon désir, comme je l'ai souvent dit, eh bien, c'est d'être dans la lumière, et qu'à chaque fois que je pourrais rencontrer véritablement quelqu'un pour lui apporter un réconfort, pour lui apporter des points de repère qui peuvent lui servir dans son avenir, de manière à le téléguider davantage, et puis l'aider à prendre davantage son envol, eh bien, je dirais que c'est plus ou moins la même chose, parce que, bon, le curé d'Ars, lui, avait la clairaudience, avait la clairvoyance, plus il avait des visions, parce qu'on sait très bien qu'il avait des visions avec aussi le fameux grappin, qui justement était toujours là pour l'empêcher de faire certaines choses et de le décourager aussi. Et ensuite, Don Bosco, c'était également un très grand voyant, mais là, il y a un branchement, une connexion avec le divin, et si, je dirais, une personne qui est voyante ou qui a d'autres particularités et qui fonctionne dans la lumière avec sa foi, éventuellement la communion, je crois que là, il n'y a pas d'irrespect. Je ne le pense pas.
C'est pas gênant, par moment, d'avoir ce don que vous avez. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous trouver en face de quelqu'un et d'être mis très mal à l'aise parce que vous voyez que cette personne ou a un très gros problème, ou va avoir un très gros problème, qu'elle va peut-être vous mourir d'une crise cardiaque dans les bras.
Ou alors quelqu'un de très malsain.
Ou quelqu'un de très... Pourquoi vous dites ça en me regardant?
Non, pas du tout. Non, mais je vais vous dire, en ce qui me concerne, à l'heure d'aujourd'hui, je préfère soit marcher à pied, soit prendre le bus, soit prendre la voiture, que de prendre le métro. Le métro, à l'heure d'aujourd'hui, et c'est pas du tout par prétention, mais c'est clair, ça m'est très 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 difficile, parce que déjà je trouve que c'est très mal habité au niveau des énergies, et de deux, il y a une telle tension que moi je peux pas. Je me sens pas bien, je me sens même très mal, et j'avoue que c'est pas possible. Je vais vous raconter
un peu. Là, c'est peut-être simplement de la claustrophobie,
hein. Ah non. Il y a vraiment un phénomène que je ressens. Par exemple, je vais vous dire, lorsque j'ai pris plusieurs fois les premiers TGV pour aller à Bordeaux, à l'époque où vous aviez tous les problèmes électriques qu'ils ont rencontrés sur la ligne, j'étais sans arrêt en sensation de tachycardie. Et ce n'est pas non plus quelque chose de psychologique, parce que je prenais le même TGV sur la ligne, par exemple, Paris-Lyon, j'avais aucun problème. Et quelques temps encore en arrière, j'avais pris un TGV pour aller à Rennes. Je me suis senti très 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 mal dans ce train. Quelques temps plus tard, on apprenait qu'il y avait eu de gros problèmes électriques qui avaient sauté, etc. En fait, il y a eu certaines gênes.
Bon, alors. Donc au fond, vous êtes peut-être sensible à des phénomènes électriques qui échappent aux autres. C'est tout simplement un.
Lorsque l'on devient hyper sensible, et même plus qu'une éponge, il est clair qu'on rentre complètement dans cette forme de désagrément. Mais je me rassure parce qu'il y a aussi de grandes joies à côté, et puis il faut rester dans la joie.
La tempête de décembre, vous l'aviez vu venir ?
En toute sincérité, je m'étais pas du tout actionné à ce genre de choses, et en toute sincérité, moi je l'avais pas senti venir du tout. J'étais préoccupé à autre chose et j'étais pas dans ce sens-là. Par contre, je tiens à vous dire une chose, et avec cette personne d'ailleurs qui est témointe, j'ai ressenti qu'il allait y avoir 3 crashs d'avion qui arrivaient. Mais d'un seul coup, vous savez, bon, ça m'est venu d'un seul coup, et j'ai senti ce genre de problème. J'ai dit, tiens, j'ai l'impression qu'il y a 3 avions qui vont s'écraser, là.
Mais ça, je vous dirais, statistiquement, ça résiste pas à l'analyse, parce que statistiquement, c'est à peu près tous les jours qu'il y a un crash d'avion.
Ah, bah alors ça, je sais.
Donc, quand vous dites qu'il y en a 3, vous prévoyez pour les 3 jours.
Non, mais enfin, bon. J'espère qu'il n'y a pas 3 crashs d'avion si souvent.
J'espère que je suis pas le nom. Ah non, il y en a tout le temps. Tout le temps. C'est un des moyens de transport les plus sûrs. C'est le moyen de transport le plus sûr. Ouais. Et c'est même un moyen de transport miraculeux parce que quand vous savez dans quel état sont certains personnels navigants, dans quel état sont certains avions et dans quelles circonstances ils arrivent à voler, vous vous dites que c'est un pur miracle que d'imaginer que 30 tonnes de ferraille arrivent à tenir en l'air aussi longtemps.
Bon. Et j'en ai un certain
sens. Donc, ce qui est normal, c'est qu'un agent s'écrase. C'est pas qu'il vole. C'est ça qu'il faut savoir, quand même. Donc, ce qui serait prodigieux, c'est que vous ayez la clairvoyance d'un vol normal.
Mais un accident. Mais écoutez, j'espère que vous l'aurez pour le bien.
J'espère qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont prendre l'avion dans les 2 jours qui viennent, parce que. Voilà. Oui, Michel, vous. Oui, non, mais comme vous m'avez invité au Maroc, vous êtes prié de faire attention. Ça va, il peut prendre l'avion.
Oui, il va prendre l'avion. Alors, ça va,
Vous travaillez par téléphone ou par Minitel ?
Ah non, alors la voyance par Minitel, et d'ailleurs il faut que tous les auditeurs nous entendent, c'est une vaste fumisterie et escroquerie, parce que là il n'y a aucune connexion d'onde, il n'y a rien qui passe, et on est écran à écran. Hein. Alors ensuite c'est de la supposition, je veux bien, mais là on rentre dans certains délires. Par contre, dans tout ce qui peut être la voyance par téléphone, je dis qu'elle existe, parce qu'il y a une émission, il y a une réception, c'est clair, comme avec Radio Courtois. Et il est clair que par rapport à ceci, bon, vous pouvez ressentir votre interlocuteur et de dire des choses. Ça, c'est vrai. Mais par contre, là encore, fumisterie, il faut faire très attention parce que vous avez des gens qui se disent être voyants et en vérité, vous avez une série de poules de gens qui travaillent pour eux, qui ne sont pas plus voyants.
Des poules de groupe, vous voulez dire.
Voilà.
Moi, je crois que c'est des gars qui faisaient travailler des poules. C'est quand même bizarre.
Non, nous ne sommes pas encore dans la cacophonie, là. Mais il est clair que par rapport à ceci, il faut être prudent. Il faut faire très, très attention.
Et avant de nous quitter, est-ce que vous avez envie de nous... Il y a quelque chose d'intéressant que vous voyez venir
Eh bien, tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose, déjà une, par rapport à la radio, dire que la radio déménagera. Je le pense très sincèrement.
Il y a déjà au moins une émission qui déménage, c'est la mienne, donc...
Mais à mon avis, la radio déménagera et dans des locaux peut-être organisés autrement, plus confortables encore pour tout le monde, je pense.
Oui, bon, plus confortable, ça va pas être difficile. Hein. Là, vous prenez pas beaucoup de risques. Si vous nous dites que c'est pire, alors c'est... Merci, Jean-Louis Philippe. Alors, il y a des messages. Vous lisez tout sans sélectionner.
Regardez.
Vous nous faites pas le coup de choisir les mauvais messages.
Je ne choisis jamais rien.
Ça va. Non, mais...
Par exemple, ça commence. Le voyant peut-il nous dire si un jour... Serge de Bekech lira à la file quelques messages d'auditeurs.
Ça, c'est
alors,
une
on
autre
est parti. La réponse, oui. La preuve, c'est qu'on va les lire.
Voyez-vous. Il y en a un que je voudrais lire avant, quand même.
Ah bah, tu pourrais lire.
Non, mais celui-là, il est beau. Pouvez-vous voir dans les chiffres combien de personnes touchent le RMI? Bon, ça, il faut lire Le Monde pour ça. C'est les voyants du monde qui vont vous le dire.
Alors, voyez-vous une chance pour notre pays de chasser les socialo-communistes?
Fait pas de politique, un voyant.
Théoriquement, un voyant fait pas de politique.
Le voyant peut-il nous dire quand Fabius sera nommé ministre de la Santé pour qu'on achète des parapluies?
N'êtes pas obligé de répondre. Hein.
Lire dans les lignes de la main, est-ce une méthode sérieuse?
Ah, là, chacun son support. Vous avez des gens qui, avec les lignes de la main, s'appellent la chiromancie. C'est une science, une étude également. Puis, bah, si une personne, grâce aux lignes de la main, peut voir certaines choses, pourquoi pas? Mais tout dépend de l'individu de son sérieux, bien sûr.
Alors, une dame s'indigne. Médiumnité n'est pas française sur Radio Courtoisie. Entendre ça, je suis révoltée. Eh bien, si, médiumnité, j'ai été voir le dictionnaire, c'est la faculté que possèdent les médiums de servir d'intermédiaire aux esprits. Voilà.
Cette dame a tout à fait raison de se révolter, parce qu'il faut se révolter. Et là, vraiment, c'est le sujet ou jamais, quoi. C'est le moment qu'on puisse utiliser un mot qui n'est pas avéré. C'est révoltant. Tout le reste n'a aucune importance. Un auditeur nous dit, avec les voyants, on redoute toujours de tomber dans le bric-à-brac ésotérique, mais loin de là, votre invité nous intéresse. C'est un voyant éclairé. Éclairé, il a dit pas allumé, hein.
Vous m'avez bien traité de flipper tout à l'heure.
Et alors, ah oui, pour un voyant, c'est normal.
Plusieurs messages. Peut-on avoir le nom et les coordonnées de votre invité?
Ah, ça, c'est votre famille qui appelle, c'est comme d'habitude.
Non. Ou alors une grande famille.
Une grande famille. Je sais pas, vous voulez bien qu'on donne votre
coordonnée?
Alors, on donne votre numéro de téléphone, donc. C'est le numéro que vous m'avez communiqué pour moi, je peux le...
Tout à fait.
Bon. Alors, Jean-Louis Philippe. Les trois prénoms, un saint et deux rois, c'est bien.
C'est pas Jean-Louis Philippe, c'est Jean-Louis Philippe. Voilà.
01 42 25 01 34. Je répète. 01 42 25 01 34.
Très bien articulé.
C'est noté.
Et on vous demande aussi, quand on dérègle toutes les montres et les pendules, et une pile ne dure pas plus de 15 jours quand on la possède, qu'est-ce que c'est?
Alors là, c'est un... Alors là, il peut y avoir plusieurs problèmes. Déjà, la personne en question peut être dotée d'un sérieux magnétisme, et là, c'est assez intéressant, parce qu'on peut aussi faire certaines expériences par rapport à cela. Je pense que c'est surtout ça. Maintenant, il faut voir aussi la maison elle-même, parce que vous avez des énergies... Oui, ça, on n'en a pas parlé, et c'est aussi assez intéressant. Vous avez les lieux qui sont très habités, avec les nœuds Hartmann, etc. Et il est vrai que par rapport à ceci, vous avez des branchements avec le sol, donc aussi les forces telluriques, les forces cosmiques. Alors, il faut voir maintenant, cette personne peut très bien aussi avoir une maison qui est située près d'un pôle électrique très important qui peut apporter également ces dérèglements.
Et que pensez-vous du film Sixième Sens?
Ah oui, alors ça justement, je l'avais noté là, et justement par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure concernant les enfants, qui pouvaient aussi ressentir certaines choses, le Sixième Sens, c'est un film qui peut justement être un bon repère, je pense, par rapport à cela.
Alors il y a des questions très indiscrètes, une auditrice qui dit, moi aussi j'ai des prémonitions, jouez-vous d'un instrument?
Non, je ne joue pas d'instrument.
Pas de musique.
Non, je ne fais pas de musique.
Parfait.
Par contre, je suis très, très mélomane et je m'intéresse énormément à la musique.
Et vous, rêvez-vous en couleur?
Oui, je rêve en couleur.
Eh bien. Et peut-on faire commerce de son don et être catholique?
Eh bien, écoutons, justement, ça m'a posé souvent cette question. Vous savez, c'est une énergie que vous donnez et que vous partagez pendant une heure et demie, des fois deux heures. Et eh bien, vous savez, comme on dit si bien, tout salaire mérite aussi sa peine. Et je dirais que...
Même le contraire, d'ailleurs, toute peine mérite salaire.
Voilà, exactement.
Ça marche dans les deux sens. Docteur Plantet, puisque vous nous faites la grâce de nous rejoindre. Bonsoir, cher docteur. Est-ce que vous avez une opinion sur la voyance?
Oui.
Alors, oui, quelle est-elle?
Elle est très favorable,
très favorable
à ceux qui ont vraiment des dons de voyance. Et je dirais que moi, ça repose en plus sur des études objectives qui ont été faites depuis fort longtemps, relativement secrètes, qui le sont moins, notamment à l'Albert Einstein College of Medicine, où ces phénomènes ont été prouvés, mille fois prouvés. D'ailleurs, il y a plusieurs journaux internationaux. Il y a le International Review of Parapsychology, et puis il y a Energetical Review, qui a travaillé sur l'effet Kirlian.
Ah oui.
Et l'ensemble ne laisse aucune espèce de doute.
On recevra prochainement quelqu'un qui continue à travailler sur l'effet Kirlian, et c'est tout à fait stupéfiant. J'ai vu des photos.
Je crois que j'étais le premier en Occident à détourner, d'ailleurs, des techniciens du CHU pour fabriquer l'appareil Kirlian, et qui a fait d'ailleurs sauter le CHU plusieurs fois parce que ça sortait à 1 million de volts à peu près.
Pardon. Jodorowsky, pardon, nous dit un auditeur, donnait des cours de tarot dans un café du quartier latin, et il nous demande, cet auditeur, ce que vous pensez de l'Arcane 16 des tarots de Marseille, mais alors là, ça va nous emmener trop loin.
Ah oui, ça, l'Arcane 16, qui est la maison Dieu. Là, on y donne une interprétation avec d'autres arcanes en parallèle, et puis en même temps, à partir de ce que l'on ressent véritablement, et c'est pas forcément une arcane négative. Ça peut être aussi, tout simplement, eh bien, l'objet d'une surprise, quelque chose de très inattendu, qui vous apporte un bouleversement positif, et pas forcément négatif.
Merci Jean-Louis Philippe. Je redonne votre numéro de téléphone si je ne l'ai pas déjà perdu. Si, il est déjà perdu. Vous l'aviez noté, vous ? Non, vous ne l'avez pas noté. Vous serez fusillé à l'aube. Non, je vais le retrouver. On le donnera tout à l'heure.
Sévèrement. Il est sur cette feuille-là, Serge.
Mais vous devez pouvoir être capable de le donner vous-même, d'ailleurs. Non, alors voilà.
Donnez-le.
01 42 25 01 34.
Redites-vous, hein.
01 42 25 01 34. Ça y est, le docteur Plantel a retenu. Donc, on pourra demander dans 12 ans, il le saura encore. Merci, à bientôt. Merci, est-ce qu'on va se revoir bientôt ?
Oh, je pense qu'on se reverra bientôt.
Bon, alors ça va. Bernard Jacquelin ?
Ah oui.
C'est chez vous, ça.
Très joli. Enfin, je ne suis pas breton.
Vous n'êtes pas breton, mais vous êtes gaulois.
Oui, je suis gaulois.
Alors, le Celte.
Je suis né à Lugdunum, Lyon, capitale des Gaules. Et du côté de ma mère, j'ai plutôt des ancêtres, quelques ancêtres suisses. Et du côté de mon père, c'est des Savoyards.
Donc, l'invasion commence.
À l'Aubroge et Helvète.
Oui, vous êtes président du Cercle Gaulois. C'est ça ?
C'est ça.
Secrétaire général, président, on ne sait jamais dans les associations.
Oui, enfin, j'ai le rôle de trésorier très souvent.
Ah, le plus intéressant, ça. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est que le Cercle Gaulois ?
Tout ça vient d'un long parcours. Je peux vous dire qu'il y a à peu près 30 ans, j'avais acheté une maison au Croisic. À l'époque, j'étais un jeune cadre dynamique et je ne savais même pas que c'était en Bretagne. Puis j'ai découvert que
vous aviez une vague idée, non ? Vous étiez en Bretagne.
Une nourriture un peu différente, une architecture, un esprit, un air différent. Et puis progressivement, le déclic, ça a été un concert orgue et bombarde à l'abbatiale, je crois que c'est l'abbatiale de Guérande, ça m'est rentré dans les tripes, et je dois dire que je réfléchis quelquefois, je me suis dit, mais c'est pas les deux poivrons qui jouent, qui ont inventé ça. Et j'ai cherché, j'ai découvert donc toute une culture, des gens qui défendaient cette culture, je suis rentré dans le mouvement breton, le mouvement politique breton, et puis, incidemment, j'ai découvert ensuite des druides en Bretagne. Voilà. Alors, à Paris, je me suis aperçu qu'il y avait aussi des druides, qu'il y en avait en Suisse, qu'il y en avait en Autriche, en Belgique, en Angleterre, etc. Et puis, il y a maintenant 12 ans, avec un certain nombre d'amis, on a fondé l'école druidique des Gaules. Et c'est de là que tout vient, si vous voulez. Donc, on est parti du plan spirituel. Un druide à Paris, il est dans un magma noir. Il a fallu que nous créions, je dirais, nos bras séculiers pour agir. Voilà.
Paris, c'est quand même pas c'est pas l'Anus Mundi, c'est la ville d'Isis, par Isis.
Oui, les druides en Bretagne, ils ont la chance d'avoir le mouvement breton qui a des organes économiques, culturels, même politiques.
Ah oui,
tout.
Mais à Paris, effectivement.
Et les druides piochent là-dedans, si vous voulez. Donc, ils prennent les meilleurs. Tandis qu'à Paris, il faut tout faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, on a créé d'abord MRG, Monarchie Régionalisme Gaulois, qui était donc quelque chose culturel qui s'adressait plutôt à la classe guerrière et où on a fêté un certain nombre de commémorations, dont le 2050e anniversaire de la bataille d'Alésia, il y a 2 ans. On est allé voir sur le site. Bon, et on a présenté ensuite un candidat gaulois au présidentiel en 95.
Mais c'était pourquoi ça? C'était
alors,
un gag ou
c'était... Alors c'était... Pas pour des raisons politiques, je vous rassure tout de suite, c'était plus pour des raisons de formation et de propagande à bon marché, si vous voulez. Ça, ça nous a coûté un peu d'argent, mais on a eu quand même 50 articles, même dans la presse étrangère.
Et combien de voix?
Oh, on s'est pas présenté à la fin.
Bon.
Voilà. Alors, dans la foulée, on a créé le Parti des Gaulois, qui est pour l'abolition de l'État et l'abolition du travail.
Donc, ah, carrément.
Carrément, ça c'est assez populaire.
C'est pas les 35 heures.
Non, alors les gens nous taxent maintenant, avant c'était extrême droite ou nazi, maintenant c'est extrême gauche ou anarchiste. Bah, les gens comprennent pas que abolir l'État, c'est pas forcément l'anarchie, puisque nos ancêtres, les Gaulois, et jusqu'à la Révolution, on a pratiquement vécu sans État.
Dans l'anarchie plus sain, comme disait,
voilà.
Comme disait Maurras.
Alors, dans la foulée, on a donc fondé le Cercle Gaulois, qui là s'adressait à un plus large public, donc avec des activités ludiques, sportives et tout. On fait des balades en forêt, où on a des dîners mondains. C'est maintenant un cercle de chefs d'entreprise gaulois, un cercle de communication.
Et qu'est-ce que ça veut dire,
et tout
gaulois,
ça,
au fond?
Et tout qu'est-ce ça qu'est-ce, est transcendé maintenant par un journal qui s'appelle Tribune Gauloise, donc qui tire à 2000 exemplaires, qui est vendu à la criée dans un certain nombre de dépôts à Paris.
Comment vous le sélectionnez, le gaulois? Par exemple, moi, si je me présente, vous m'acceptez?
Ah bah tout de suite, vous avez des moustaches, c'est tout de suite fait.
Bon, alors, ça, justement, moi, c'est ce que je voulais dire.
Il suffit d'avoir des moustaches, en fait.
Vous n'en avez pas, alors moi, ça me choque.
Non, mais parce qu'il les a rasés pour venir là.
Alors, bah, votre question m'amène à définir un peu ce que sont que les Gaulois. Bon, la plupart des gens à l'école, on leur a dit la Gaule était un vaste pays tout couvert de forêts, les Gaulois étaient des sauvages qui habitaient des cahutes en bois. Bon, alors les Gaulois, la meilleure définition, je crois que c'est de dire que ce sont nos ancêtres. En fait, 80%, même 90% des gens ont des ancêtres directs gaulois. Bon, parce que les envahisseurs, que ce soit les Germains, les Normands et tout, c'était 10 000 cavaliers ou 10 000 marins, c'était pas vraiment des invasions. Même les Allemands du Sud sont gaulois. Bon, les Autrichiens, les Suisses, etc. Bon, alors ça c'est une chose. Alors maintenant, dans les Celtes dans le temps. Alors les Celtes font partie, si vous voulez, du rameau, c'est un des rameaux du groupe indo-européen.
Gaulois et Celtes.
Alors Gaulois et Celtes, c'est synonyme, si vous voulez. Les Celtes ont couvert toute l'Europe, on verra comment. Et Gaulois, c'est plutôt les Celtes qui ont occupé la Gaule actuelle, enfin la France actuelle, la Belgique actuelle, la Suisse actuelle. Alors ils sont partis, c'est un rameau donc indo-européen. Bon, les indo-européens ont démarré il y a 10 000 ans. Du cercle polaire, toutes les cosmogonies et toutes les histoires des peuples européens l'attestent, et ont occupé toute la de la Russie, l'Inde et toute l'Europe, n'est-ce pas? Et ça s'est divisé ensuite en rameaux, ce que Dumézil appelait des provinces. Donc il y a eu la province celtique, la plus ancienne, ensuite il y a eu la province germanique, la province grecque, la province latine, il y a eu la province indienne et les Russes. Donc nous sommes les ancêtres les plus anciens indo-européens, si vous voulez. Donc quand vous apprenez le breton ou vous apprenez le gaulois, comme j'ai fait pendant 6 mois, vous avez la langue la plus, vous touchez la langue la plus ancienne qui se rapproche le plus de l'indo-européen. Et voilà. Alors ils ont donc ensuite le rameau celte a démarré très exactement il y a 4573 ans. Vous voyez que c'est précis.
À quelle heure?
Alors, c'est attesté, je ne sais pas l'heure, mais c'est attesté par des légendes, si vous voulez, irlandaises.
4573 ans, c'est vraiment...
Tout à fait précis. Alors, si vous voulez, c'est attesté par des légendes irlandaises qui disent que les cycles celtiques commencent toutes les fois que les deux constellations de l'ours et de la... Ah. Et du dragon se touchent. Bon, alors il y a un type un peu curieux, il y a 12 ans, qui a demandé à un copain astronome, qui a dit oui, effectivement, ces deux constellations se touchent tous les 760 ans. Et les légendes irlandaises parlent du premier âge de deuxième, troisième, quatrième. Il suffit de faire le calcul à l'envers. Et nous sommes aujourd'hui la 13e ou 12e année du 7e cycle. Donc, vous voyez, on peut faire le calcul à l'envers et voir la chose très précise. Et ils sont partis du Harz, massif du Harz. c'est le centre de l'Allemagne, c'est un massif forestier qui se trouve pas loin de Nuremberg, exactement, vraiment le centre, puisque le rideau de fer passait à travers. Et ensuite, il y a eu une première expansion qui a à peu près duré 1000 ans, ce qu'on appelle la civilisation des champs d'urnes. Moi, je savais pas que la civilisation des champs d'urnes, c'était mes ancêtres. Bon, il y a eu l'expansion suivante qui a été l'âge du fer, donc vers moins 1000. Ils ont inventé le fer. Et là, c'était la civilisation de Hallstatt, dont l'Hallstatt est en Autriche. Et il y a eu l'expansion maximum, c'est la civilisation de l'Athènes, la plus brillante. L'Athènes est un village lacustre qui se trouve en Suisse. Et les Celtes, à ce moment-là, ont occupé toute l'Europe. Elle est beaucoup plus grande que l'Europe actuelle des 15, puisque ça allait de la Turquie, c'est-à-dire l'Anatolie, jusqu'aux îles britanniques, du sud de la Pologne, le sud de la Russie, jusqu'au Portugal. Alors tout ça, c'est attesté aussi par la toponymie, puisque Galles, Celtes, c'est partout. Hein, vous avez le pays de Galles, vous avez le pont des Galates.
La Galilée aussi.
Vous avez la... ça, c'est un peu discuté.
Il faut lire le bouquin de Moore, de Jean-Paul Bourg,
oui.
Qui est tout à fait passionnant.
C'est une théorie, c'est pas attesté. Bon, Galles, vous le trouvez partout, la Galice en Pologne, la Galice en Espagne, et même Portugal veut dire port des Gaulois, parce que je vois mon garagiste portugais, quand je lui ai dit ça, maintenant il me répare ma voiture parce que gratis, tellement il est content.
C'est bien. Alors, bon, on fait un saut rapide dans l'histoire. Au fond, ce que vous nous disiez, tout à l'heure, vous nous disiez que les Romains étaient des Gaulois. Enfin, des Celtes, ils étaient,
non, les Romains étaient de la même famille indo-européenne. Voilà. Alors,
donc c'est une forme de guerre fratricide.
Rapidement quand même, attendez, les Celtes ont véritablement hérité des valeurs authentiques des indo-européens, c'est-à-dire, bon, la langue, la spiritualité probablement, et surtout la trifonctionnalité, c'est-à-dire la structure en trois classes, donc la classe sacerdotale, la classe guerrière et des rois, et la classe des producteurs, avec la hiérarchie de ces classes. Et les Romains, bien sûr, ont gardé les trois classes, mais ils ont un peu bouleversé la chose, c'est-à-dire qu'il y avait une priorité du guerrier sur les prêtres. Les prêtres n'avaient aucun rôle à Rome, si vous voulez. Donc ça fait une société un peu différente, qui avait des valeurs beaucoup très différentes. Enfin, si vous voulez, en raccourci, les Gaulois étaient une société plutôt spirituelle et culturelle, alors que Rome, c'était plutôt une société qui marchait par la force et la matière, hein, matérialiste. Donc ça entraîne, les uns sont fédéralistes, les autres centralistes, l'un c'est le contrat, l'autre c'est l'écrit, la coutume ou l'écrit, l'un c'est l'honneur, l'autre c'est le légalisme, l'un est communautariste, les Gaulois, alors que les Romains sont plutôt collectivistes, les Gaulois avaient des rois élus, chez les autres peuples méditerranéens c'était plutôt des despotes, les Celtes étaient des peuples libres, les autres c'était des empires centralisés. Bon, le patriotisme et le cosmopolitisme, la raison et la tradition, enfin, c'était deux mondes différents.
Donc, ils étaient condamnés à... Il y a beaucoup d'appels je fais une parenthèse, beaucoup d'appels d'auditeurs qui veulent savoir s'ils peuvent être gaulois. Alors, notamment, on a un habitué, auditeur habitué, qui est le professeur Shakti. Notre ami, le professeur Shakti, demande s'il peut devenir gaulois. Écoutez, professeur, là, franchement, bien que vous ayez de la moustache et de la barbe, je crois que vraiment... je sais pas, est-ce qu'on peut considérer que les Indo-Pakistanais sont intégrables à la nation gauloise?
Bah ça, je sais pas. Chacun. Maintenant, le Gaulois, c'est un état d'esprit.
Bon, donc, Gaulois qui veut, quoi.
Et Gaulois qui veut, bon. Si on est bien dans ses baskets chez
alors,
nous.
Alors, hein. Dear Professor Shakti, I have a good news for you. Ouais. Are Gaulois.
En Europe, ceux qui sont pas Gaulois, c'est bien sûr les Germains, c'est-à-dire les Allemands du Nord, les Vikings, et puis chez nous, les Corses et les Basques, c'est un peu limite, quoi. Voilà.
Et puis un auditeur, je lis les messages à mesure parce que on va avancer. Un auditeur nous dit, je m'élève en faux contre votre affirmation qu'il n'y avait aucun mouvement druidique à Paris, puisqu'il y avait M. Paul Boucher, qui était le grand druide de France, et le successeur intronisé de Phileas Lebesque. Phileas Lebesque, remarquable personnage, un grand écrivain par ailleurs. Alors, ça, ça a fait flotter sur vos lèvres un sourire presque méprisant.
Bon, je ne vais pas m'étendre sur la mouvance druidique et néo-druidique. Disons rapidement, il y a trois lignées. Bon, ce monsieur a une lignée tout à fait honorable, et nous nous réclamons plutôt de John Toland, qui est la lignée ésotérique et païenne. Bah, je m'excuse, c'est comme ça.
Bon. Alors, si on m'avait dit que je recevais un païen en plein carême, je n'aurais pas sorti de l'auberge. Là. Alors, maintenant, venons-en au grand événement, si vous voulez. Bon, on ne va pas refaire l'histoire de la Celtitude, parce que ça serait trop long. Mais il y a cette guerre des Gaules qui nous a permis d'apprendre le latin, enfin, d'avoir des zéros en latin. Et puis il y a le fameux siège d'Alésia. Alors, le siège d'Alésia, c'est un vaste programme qui, en général, on commence toujours à bavarder d'Alésia d'une façon extrêmement courtoise, ça finit généralement par des insultes, voire des coups de poing. La question étant de savoir où est Alésia. Bon, alors, est-ce que vous avez une position, vous, les druides païens?
Alors, si vous permettez, je vais faire un panorama rapide de la guerre des Gaules. Hein. Bon, l'affrontement entre Rome et entre les Celtes et les Roms, si vous voulez, est assez ancienne, puisque déjà en moins 400, les Gaulois étaient partis surtout du Berry, c'était Brennos, et ils ont occupé tout le nord de l'Italie, toute la côte adriatique. Ils ont pillé Rome X fois. Et ils ont gagné la fameuse bataille de l'Allia, etc. Bon. Et ils ont malheureusement battu les Étrusques, qui étaient le principal ennemi de Rome, et ça a permis à Rome de se développer plus tard. Bon. La guerre des Gaules, à mon sens, elle a commencé véritablement à ce que j'appelle l'appel de Marseille, en moins 154. Donc vous voyez que quand on va jusqu'à Alésia, en moins 52, pratiquement la guerre des Gaules a duré 100 ans.
Pour la première guerre de 100 ans.
La première guerre de 100 ans. Après une guerre de 250 ans, c'est-à-dire qu'il a fallu 250 ans aux Romains pour vider les Gaulois de la péninsule italique, hein, tout de même. Alors cet appel de Marseille a commencé quand les Marseillais, les Massiliotes, étaient d'origine grecque, s'étaient installés à Marseille, dans un petit port, avec l'accord des Saliens.
C'était des Sémites, parce qu'un auditeur nous dit les Grecs ne sont pas des Indo-Européens, ce sont des Sémites. Si vous parlez le grec, la lettre alpha fait partie de l'alphabet sémite.
Donc, je regrette.
Quand on est antisémite, on est contre les Grecs.
Les Grecs sont des...
Opposants.
Les Grecs sont des Indo-Européens. Bien.
Le fameux lien qu'on cherchait depuis longtemps entre les Ariens et les Sémites, c'est les Grecs. Mais on est tout le monde d'accord,
ouais.
Non
enfin, bon, c'est, enfin, moi, c'est un autre monde. Hein,
moi, je suis slave.
Donc, vous êtes indo-européen.
Oui.
Donc, l'appel de Marseille, c'est-à-dire que les Saliens, qui avaient comme capitale Entremont, au nord d'Aix-en-Provence, commençait à en avoir un peu marre de cette ville qui s'étendait.
Déjà,
avec des gens qui venaient de partout, déjà. Et ils ont dit, on va les foutre à la mer. Déjà.
C'est ça, merci.
Alors,
comme quoi, c'est totalement désespéré. Alors là, vraiment.
Malheureusement, les Massiliotes avaient un accord de défense avec Rome. La guerre a commencé, le siège, et Rome est venu au secours de Marseille et a battu les Saliens. Bon, mais les Saliens avaient un accord...
Ça, je l'ai vu dans Honoré de Marseille avec Fernandel, voilà. C'est très bien raconté.
Alors, les Saliens avaient un accord de défense avec les Allobroges, c'est-à-dire les Savoyards. Et les Savoyards sont venus au secours donc des Saliens, il y a eu une bataille, et les Romains ont encore battu les Allobroges. Mais les Allobroges avaient un accord de défense avec les Arvernes, les Auvergnats. Et les Auvergnats, depuis 150 ans, les Romains n'arrivaient pas à bout, hein, ils avaient conquis... Et le roi à qui a échu cette confrontation était Bituite. Alors Bituite était le fils de Luerne. Alors il faut savoir que Luerne se baladait, alors ça c'était écrit dans Strabon, dans un char en argent massif et qui jetait des monnaies d'or dans le chemin pour faire plaisir à la foule.
Voilà une idée pour Jospin Fabius. Ce qu'il faut faire pour être élu.
Voilà comment étaient les Auvergnats dans le temps. Alors,
forcément, à force de balancer l'argent par les fenêtres, le résultat, hein, on le connaît. J'en dirai pas plus parce que je veux pas non plus avoir des problèmes avec les associations de protection de l'Auvergne, la SPA.
Alors, son fils Bituite est arrivé devant les légions romaines avec une armée de 150 soldats, ce qui était considérable pour l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, les villes avaient même pas 1000 mercenaires ou 1000 soldats de métier. Et l'armée romaine a pris peur et a dit, il faut négocier. Donc ils ont amené les Gaulois à venir négocier. Et en fait, ils ont attiré le roi Bituit dans un piège, ils l'ont assassiné. Alors cette armée considérable, c'est défaite. Il y a eu 120 000 morts d'après les écrits latins, etc. Et c'est ce qui a fait la conquête de la provincia pour les vaincus. Voilà.
Et donc, alors, la suite de ça...
Alors, la suite de ça, c'est qu'il y a eu donc un affrontement direct entre les Romains et les Auvergnats. Alors, il faut savoir que les Latins se sont aperçus qu'ils pourraient pas conquérir les Gaulois ou battre les peuples gaulois tant qu'ils n'aboliraient pas les monarchies. Et ce qui faisait la force de ces peuples, c'est savoir que c'était une fédération de peuples avec des rois à la tête. Et donc, les Romains ont commencé à faire miroiter leur modèle, qui était un Sénat, une démocratie, etc. Donc, ils ont soudoyé...
Des cochonneries qui commencent.
Ils ont soudoyé, qu'on commence à soudoyer les élites pour faire des Sénats, pour que les barons commencent à prendre la place du roi, enfin, etc. Donc, avec l'argent, enfin, c'est beaucoup plus facile d'acheter, je dirais, des notables, les Romains le savaient, que d'acheter un roi qui est en prise directe avec son peuple. Et ils ont commencé, donc, à faire des Sénats qui ont balancé par terre les rois des Celtes. Donc, ça affaiblit la mouvance celtique. Et ça, ça a pris 100 ans à peu près, mais ils y sont à peu près arrivés. Alors, en Auvergne, il y avait un des rois qui avait été destitué par son Sénat, par son parlement local, qui était Celtios. Celtios a été assassiné sur la place de Gergovie devant les yeux de son fils, qui s'appelait Vercingétorix. Alors Vercingétorix, il avait 18 ans, peut-être 15 ans, il a gardé la leçon, il a dit, bon, pour que mon peuple soit fort, il faut un roi, et deuxièmement, pour qu'on soit fort et qu'on boute le Romain, il faut fédérer tous les peuples de la Gaule. Voilà, il a reçu la leçon, et c'est ce qu'il a essayé de faire après.
Donc ça nous conduit à Alésia. Alors, voilà. Alésia, ben on connaît l'histoire, si on a fait un peu de latin.
Alors, ça conduit à Alésia. Alors, il y a la géostratégie, si vous voulez, de la Gaule était la suivante, c'est qu'il y avait un peuple qui était les Édouins, qui est en Bourgogne, qui était assez commerçant, et au passage de toutes les routes de l'étain et la route du vin, etc., et ils commerçaient beaucoup avec les Marseille et avec les Latins. Et déjà à l'époque, les Édouins avaient frappé une monnaie d'or qui avait exactement le même poids que la drachme de Marseille et que de la monnaie de Rome. Bon, vous voyez qu'à l'époque, on n'était pas si bêtes, ils avaient déjà créé la monnaie commune européenne. Mais une monnaie commune, hein, c'est pas l'utopie de monnaie unique. Alors, ce peuple était donc avait été décrété ami de Rome, etc. Et c'était véritablement de la graine de collabo, je dirais. Et il y avait une jalousie avec les Arvernes, etc. Donc, Rome soutenait les Édouins, et les Édouins étaient véritablement le ventre mou de la Gaule, et Jules César...
Quelle région, juste pour faire plaisir?
Les Édouins, c'est la capitale était Bibrac, qui est pas loin de...
Ah, c'est là que Mitterrand voulait se faire enterrer.
Voilà, Mitterrand, c'est un Édouin.
Le cœur de la Bourgogne.
Alors, il y a une légende qui dit, on verra la suite, que les Édouins ont trahi les Romains, ils ont trahi Vercingétorix et sont trahis eux-mêmes. Voilà, Mitterrand était un Édouin.
Eh ben, c'est parfaitement réussi. Ça reste, hein, ça marque quand même.
Ça marque.
Donc, allons.
Voilà. Les Édouins ont eu un certain nombre de problèmes. Ils ont été battus.
Je pense qu'il va y avoir deux ou trois Édouins qui vont nous téléphoner en disant, je supprime immédiatement mon abonnement.
Ils ont été battus par les Séquanes qui se sont alliés avec les Germains déjà. Et puis les Germains commençaient à remuer et notamment, ils embêtaient beaucoup les Suisses, les Helvètes. Le départ de la guerre de les Gaules, ça a été que les Suisses ont dit, on va quitter nos montagnes, on veut aller au bord de la mer. Ils avaient pris un accord avec Sainte pour aller au bord de...
Déjà,
avec les Santons.
On va aller au bord de la mer.
Voilà. Et ça ne plaisait pas aux Édouins, et qui ont demandé à Rome, donc, d'arrêter les Helvètes. Est-ce que les Helvètes ont réussi à faire? Donc, il y a eu un départ de 350 000 Helvètes, je crois. Et puis ils étaient avec leurs chariots, leurs femmes, leurs bestiaux et tout, donc ils sont passés par le col de la Faucille, ils ont tourné les défenses romaines, mais ils ont été quand même rattrapés parce qu'ils allaient moins vite que la cavalerie.
Suisses forcément.
Et ça a fait, il paraît qu'il y a eu 100 000 morts, il y en a même pas 80 000 qui sont retournés en Suisse sur 380 000. Voilà, un vrai massacre. Alors, les Romains en ont profité pour rester chez les Édouins. Et puis là, Jules César donc a commencé à faire un certain nombre de campagnes. Donc, les Helvètes, c'est en moins 58. Alors, en 57, il y a eu une campagne vers la Belgique. Donc, ils sont allés du côté de Liège. Ensuite, en 56, ils sont allés repousser les Bretons. C'est là qu'il y a eu la fameuse bataille contre les Vénètes. Alors, les Vénètes, qu'est-ce qu'ils venaient chercher, Jules César? Ils venaient chercher la richesse des Vénètes, parce que les Vénètes étaient très, très, très riches, puisqu'ils étaient au carrefour du commerce du sel et de l'État. Et donc, Jules César cherchait de l'argent pour financer ses dettes, les dettes qu'il avait pour sa campagne électorale à Rome, et pour financer la guerre des Gaules qui va suivre. Alors, en 55, il fait une incursion en Germanie, assez victorieuse, enfin il a eu quelques problèmes. En 54, il essaye de débarquer en Angleterre, bon, il y a eu une tempête, il n'a pas réussi, Dumorix, l'Éduin, a réussi à le battre, bon. En 53, il y a eu des révoltes au nord, donc en Biorix, qui écrase les Romains. Il y a la révolte d'Acco chez les Sénons, Acco, qui est un grand chef gaulois, sera supplicié. Alors, le supplice d'Acco et le supplice d'Ambiorix, ça a été deux fautes politiques, si vous voulez, qui ont été le ferment de l'union des Gaulois contre les Romains. Là, les Gaulois, l'ensemble des Gaulois commençaient à y voir clair, si vous voulez. Alors, ça a été le soulèvement en 53, qui a été décrété chez les Carnutes, 5-53. Carnutes, c'est Chartres, près de Orléans. Alors la guerre, la véritable guerre, donc la campagne, c'était en moins 52. Alors Jules César est arrivé d'Italie avec 10 légions et il a tout de suite commencé par couper son armée en deux. Et il a envoyé 4 légions à Paris et avec Labiénus en tête, qui était son adjoint, et il a attaqué donc la petite tribu des Parisiens. Alors pourquoi Paris n'avait aucun intérêt stratégique, c'est parce qu'à Paris il y avait le temple de Lugue à Montmartre qui était le premier dieu des Gaulois. Donc ce que faisaient toujours les Germains, c'est qu'ils attaquaient les temples pour démoraliser l'adversaire. Voilà. Alors pendant ce temps, Jules César a fait attaquer la ville d'Orléans, donc pour punir les Carnutes. Ensuite, il y a eu le siège de Bourges qui a duré tout l'hiver. Alors, Bourges était une ville considérable avec d'énormes fortifications. Jules César les décrit, c'était les Murus Gallicus qui étaient très hauts en pierre et en bois. Donc, impossible d'abattre avec le bélier, impossible à incendier, etc. Et les Romains ont réussi, malgré les marais, le froid, l'hiver et tout, à investir cette ville en créant d'énormes machines qui étaient aussi hautes que les fortifications, donc des fortifications roulantes qui faisaient 100 mètres de large et qu'ils ont avancé jusqu'aux murailles pour pouvoir sauter les murailles. Voilà, alors ça a été un massacre considérable. Ensuite, donc ça c'est une victoire de Jules César. Ensuite, Jules César a descendu l'Allier et il voulait attaquer Gergovie, donc qui était la capitale de Vercingétorix. Alors là, Gergovie, ça a été une défaite pour Jules César, puisqu'il n'a pas réussi à prendre la place. Et puis Vercingétorix le suivait avec des armées de plus en plus importantes. Et il n'a pas voulu tomber dans le piège qu'on appelle le marteau et l'enclume. Enfin, bien bien fou, c'est un exemple. C'est-à-dire d'être pris entre les assiégés et les gens qui viennent libérer de l'extérieur. Bon, donc grand chef, enfin Vercingétorix était un grand chef, mais l'autre avait déjoué le piège. Donc il a levé le camp, et à ce moment-là, il est remonté vers le nord, et il a attendu Labiénus qui descendait de Paris. Donc ça s'est passé là, vers le mois de juillet, il a reposé ses troupes au nord d'Auxerre à peu près, et donc les deux armées confondues, donc à peu près 10 000 légionnaires, ont refait leurs forces. C'était l'époque des moissons, ils ont refait leurs provisions. Il faut savoir qu'il faut à peu près 1 kilo de nourriture par jour et par légionnaire, donc le calcul est vite fait. Quand on a 20 ou 30 000 hommes, c'est des tonnes et des tonnes, ça fait près de 100 tonnes par mois, 1000 tonnes par mois.
1000 tonnes par mois, oui.
Voilà. Donc il faut les ramasser, hein, les graines. Et ensuite, Jules César a décrété qu'il allait secourir la Provence, parce que la Provence était attaquée par les Arvernes. En fait, de secourir la Provence, enfin, c'est ce qu'il a écrit. Mais vous ne pouvez pas écrire qu'il battait la retraite parce qu'il avait peur d'un soulèvement général de la Gaule et c'était ce qui était en train de se produire. Et à cette époque-là, les seuls alliés étaient les peuples de la région de... Langres. Les seuls qui soutenaient à cette époque-là les Romains, c'était les Lingons, Langres. Donc le projet de Jules César, à ce moment-là, ça a été de partir plus ou moins vers l'Est pour rentrer en Italie. Alors pour rentrer en Italie, il y a plusieurs chemins. Alors il y a un chemin qui est de passer par Lausanne, il y a un autre chemin qui est d'arriver à Genève, et il y a un troisième chemin qui est d'arriver à Lyon, par Lyon. Bon, en fait, de toute façon, ces trois chemins font qu'il fallait qu'ils remontent l'Avrol et qu'ils suivent dans la direction d'Alésia. Bon. Alors, la bataille d'Alésia officielle, tout le monde la connaît. Le site d'Alésia officiel, c'est à Lys-Saint-Rennes, dans la Côte d'Or. Bon, très rapidement, ce site prend l'eau. Maintenant, aucun historien sérieux, je crois, peut le soutenir, sauf officiellement. Pourquoi ? Parce que le site est trop petit, parce que... Il y a les 24 castrums décrits par César où il n'y a pas la place, on les a pas trouvés. Le site, l'oppidum d'Alésia d'Alys-Saint-Rennes fait 95 hectares, donc c'est impossible de loger tout le monde. Et puis surtout, l'éperon à Mussy, la fosse, là où soi-disant l'armée de secours qui a fait plus de 250 000 ou 300 000 hommes, c'est impossible de loger tous ces soldats-là. Bon, alors je passe rapidement. Alors, il y a la version du Jura, la Chaude-Crotenay, que vous connaissez bien ici à Radio Courtoisie. Alors, j'ai été un colloque de l'abbé Wartel, j'ai été sur place, j'ai lu l'énorme bouquin qu'a écrit l'abbé Wartel. Alors, j'ai été très convaincu. Disons que, rapidement, au point de vue tactique, je suis convaincu. C'est un site mégalithique, c'est une grande forteresse. Il y a eu des... Quand on a fait des fouilles, on a trouvé des traces de bataille. Il y a la plaine pour faire la bataille de cavalerie. Bon, il y a tout ça. Mais, première chose, à mon point de vue, c'est trop loin. C'est-à-dire que entre le camp de César l'été et la Chaude-Crotenay, il y a 300 km. Pour faire ces 300 km, même en allant très vite, les légions qui s'étalent sur 100 km doivent faire des étapes et des tours. On peut pas dépasser les 10 km par jour, déplacer une armée comme ça. Bon, ensuite, il aurait fallu traverser la
Seine. À marche forcée, quand même, il faisait plus que ça. Les légions romaines à marche forcée, c'était...
À marche forcée, oui, mais vous pouvez...
40 km.
Oui, mais il faut savoir qu'il y avait 14 000 ou 20 000 ânes chargé de tous les trésors d'or et d'argent pillés en Gaule, plus les tonnes et les tonnes de blé, plus les objets de l'artillerie, plus les chariots, plus la cavalerie, plus etc., plus les auxiliaires, c'est phénoménal. Oui. Bon, c'est pas possible. Alors, tout ça harcelé dans des endroits où il y avait des forêts, où il y avait des marais, où il y avait des... Donc, il fallait déplacer une partie de l'armée, assurer toutes les défenses, ensuite en déplacer un petit bout, déplacer l'arrière-garde, et puis repartir, etc. Il faut marcher comme ça. Donc 10 km, c'est énorme. Bon, donc ça veut dire beaucoup de temps. Et d'autre part, il aurait fallu d'abord qu'il traverse la Saône. Or, c'est un fleuve considérable, et Jules César n'en parle pas dans ses écrits. Bon, il fallait aussi traverser tous les marais qui sont au nord de Dole, et à l'est de Dijon, et ça, c'était impossible. Bon, mais la principale raison, pour moi, elle est tactique, stratégique, c'est que il est impensable que Jules César pense passer par la Suisse, chez les Helvètes, parce qu'il se serait fait massacrer, étant donné l'état de faiblesse où il était.
Alors, Bernard Jacquelin, il est pratiquement 19h30, et je m'aperçois que, d'après les messages qu'on reçoit, votre intervention passionne. Je vous cache pas qu'au début, moi, je vous recevais d'une façon un peu amusée, parce que, cercle gaulois, je me suis dit, bon, c'est sympathique, mais ça va pas très loin. Et puis, en fait, le résultat, c'est que les auditeurs sont passionnés. Alors, je vais vous faire une proposition.
Oui.
Vous allez revenir pour nous parler de votre Alésia à vous.
Ah, d'accord.
Qui est, on peut le dire tout de suite, votre proposition.
Alors, moi, c'est Alésia, c'est à Guillon.
C'est à Guillon dans Lyon.
Dans Lyon, bon. Qui est à 15 km à l'est d'Avallon et à 30 km à l'ouest de la Lys-Saint-Rennes officielle.
Alors, ce que je vous propose, c'est de revenir dans une émission prochaine pour nous expliquer ça, pour nous dire quelles sont les raisons que vous avez de soutenir ce site, pour nous raconter la bataille d'Alésia, parce que je constate que vous maîtrisez ça parfaitement. Et puis, éventuellement, alors là, je lance un un appel, comme jusqu'à présent, je crois que j'étais une des rares émissions à laquelle l'abbé Vertel n'avait pas participé. S'il veut venir vous apporter la contradiction, il est le bienvenu.
Ah, tout à fait.
Je suppose que ça se passera entre Gaulois Courtois. Donc, voilà, on fait comme ça, si vous voulez. Parce que là, on a plus le temps. Donc, je vous réinvite pour parler de Guyon.
Peut-être pour terminer simplement.
Il n'en reste pas une minute.
Une minute, voilà. Donc, alors, je vais quand même sur ce sujet annoncer que je fais une conférence le 4 avril. Allez-y, la bataille des Gaules.
Alors, voyons voir. C'est à quel endroit,
cette 4 conférence. Avril. Alors. C'est les rois gaulois, la guerre des Gaules et où se trouve Alésia. Donc on est plein dans le sujet. Alice, Chaude-Crotenay, Alice Guyon, par Bernard Jacquelin, archéologue aérien, puisque je fais de l'archéologie aérienne aussi. Alors ça se passe 4 places Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e.
D'accord.
Voilà.
Paf, 40. Toujours cette bonne adresse, 4 places Saint-Germain-des-Prés.
Alors, deuxième.
Le 4 avril à quelle heure?
4 avril à 20h.
Et ensuite, le 8 et 9 avril.
Alors ensuite, le 8 et 9, on fait une visite de l'oppidum d'Alisa à Guyon et Bibracte, capitale des Édouins. Donc il suffit de téléphoner, parce que je vous donnerai les détails, de
rendez-vous.
Téléphonez où?
Bien. Alors, 01 42 26 24 82. Voilà.
Merci.
Il y a un fax. Je préfère même qu'on me faxe les questions et je réponds par fax ou par courrier.
01 42.
Oui, c'est
01 42 26 24 82. Merci.
Merci.
Avec nous sur Radio Courtoisie, tout de suite et en direct, la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Becquetch. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1 et au Mans sur 98.8. Et pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Becquetch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 29 mars 2000 de 18 à 21h, en différé jeudi 30 mars dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone
au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Et voilà, je dis voilà parce que je viens d'apprendre une bien triste nouvelle. Alors notre frère Pasquini est passé à l'Orient éternel. Oh non, c'est bien triste tout ça. C'était le type de Charlie Hebdo. Ah, c'est gluant. Mmh. Eh ben, ça y est, il a été englué. Bien triste. Pleurons, pleurons, gémissons. Pour faire semblant d'avoir de la peine. Hein. Bon. Alors, cette deuxième partie, je reçois donc François Plantet, Nicolas Bonnal et Michel Leguay. Alors, Michel Leguay a écrit un livre que François Plantet a été probablement le premier à lire parce qu'il l'a lu il y a 30 ans. Lui.
Oui, c'était en 62-63.
Plus que ça.
Ouais. Oui, 62.
62. C'était la version courte.
Non, c'était pas une version. C'est même pas moi qui l'ai écrit, pour être très clair. Non, non. C'est un ami que j'avais rencontré en Algérie et à qui je racontais mes anecdotes, qui m'a dit faut expliquer ça à des lecteurs. Et puis au cours d'une soirée, il a pris des notes et il a lancé ça. Ah, oui. Il m'a demandé l'autorisation de faire ça. J'avais appelé ça musical en uniforme à l'époque. Et puis musical en uniforme, ce sont des termes qui sont un petit peu qui deviennent anciens maintenant. Alors j'ai voulu changer le titre. Et je suis allé très fort pour changer le titre avec mes amis là, puisqu'on l'a appelé Apocalypse Show.
Apocalypse Show. Bon, évidemment, la couverture est belle d'ailleurs, c'est tout à fait.
La couverture est belle, je suis content que vous me disiez ça.
Oui, elle répond au titre. Alors, avant de vous donner la parole, Michel Legage et à François Plantet, qui est intéressé par cette histoire, puisque c'est un Algérien, François. C'est ça qu'on dit ?
Oui,
Algérien d'Algérie.
On est né,
voilà, né là-bas. Je voudrais quand même donner la parole au docteur Villette pour nous faire le point sur je vais y arriver. Non, je ne vais pas y arriver. Le rosaire. Alors,
Le rosaire pour la vie.
Voilà, le rosaire pour la vie. Vous savez, c'est difficile, à mon âge, on fatigue assez vite. Bonsoir, docteur, vous êtes au téléphone.
Bonsoir, monsieur de Vekech. Mais vous savez, c'est une fatigue bien compréhensible, parce que j'ai fait aussi pas mal de radio libre, et je sais qu'au bout de 3 heures d'émission, il y a quand même une
fatigue. Mais moi, c'est 1h30,
vous voyez. 1h30, oui, alors il y a quand même une fatigue réelle, c'est tout à fait normal. Je vous remercie de votre accueil, en tout cas. Et le point pour le rosaire pour la vie de samedi prochain, qui est dans toute la France, et ça et là dans le monde, dans les cathédrales, c'est un témoignage. Et alors, il y a une dynamique qui se manifeste actuellement. D'une part, certains aspects œcuméniques avec les Coptes, nos frères séparés, qui sont martyrisés actuellement en Égypte, et dont on pourra reparler plus tard, mais qui ont une très grande dévotion mariale et qui ont compris que l'ONU visait essentiellement les 13 pays les plus surpeuplés, à commencer par l'Égypte. Alors, ils se battent pour le respect de la vie, comme nous les Français, et ils ont décidé de venir prier avec nous à Notre-Dame de Paris, parce que la diaspora égyptienne est assez importante. Il y aura également samedi à 17h à Notre-Dame de Paris le chœur Montjoie, Saint-Denis, qui est bien connu sur Radio Courtoisie, et qui viendra donc chanter dans la cathédrale le Salve Regina final, donc, et le Christus Vincit, auquel nous tenons beaucoup, car c'est tout un programme et toute une espérance. Il y aura aussi maintenant annoncé un ou deux prêtres de la tradition. La dynamique des rosaires pour la vie est en pleine expansion, et elle se témoigne également d'une grande amitié interassociative. Le mois dernier, il y avait M. Grenuau, qui est donc le président du CSEN, le Comité pour sauver l'enfant à naître, et qui est venu, qui nous a préparé sa journée, ils sont plusieurs à organiser ça, la journée mondiale pour la vie. Et finalement, après le rosaire pour la vie, ce mois-ci, donc samedi prochain, après avoir prié, nous irons boire un verre de l'amitié à la brasserie à côté, et nous referons une réunion de travail avec M. Grenuau et tous les responsables du Comité pour sauver l'enfant à naître, qui veulent préparer la journée du 29 avril. Donc c'est la 10e journée mondiale pour la vie. Moi je serai en Italie le 29 avril pour animer cette journée mondiale à Modène, mais il y aura des tas d'amis du respect de la vie qui seront avec vous autres, et la première chose à faire, c'est venir déjà samedi à 17h à la cathédrale pour prier ensemble, témoigner au cœur du diocèse, que ça se fait également à Nanterre, à Saint-Denis, à Pontoise pour l'Île-de-France, J'ai entendu tout à l'heure que Radio Courtoisie était écoutée sur l'ensemble de la France grâce au bouquet satellite. Eh bien, on peut dire que pratiquement dans toutes les cathédrales de France, les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent se dire « Allons-y ». Et si on est en voyage, eh bien, cette fameuse dynamique, premier samedi à 17h, la cathédrale, c'est finalement un slogan relativement facile à se répéter et à se dire « Toutes les associations, et vous voyez, maintenant, même les non-catholiques, les coptes, se mettent à rejoindre ce fameux témoignage pour le respect de la vie. » Alors, c'est très, très encourageant.
C'est le couronnement de combien d'années de travail, docteur Villette, pour vous? Vous avez commencé il y a au moins une quinzaine d'années, vraiment, à lancer
Donc, le combat pour le respect de la vie, je le mène depuis 1973 avec une petite équipe d'amis qui, malheureusement, s'éclaircit tous les ans.
Presque 30 ans. J'ai 15 ans, j'étais au-dessus de la vérité.
Deux ans avant la loi sur l'avortement. Par contre, les rosaires pour la vie, eux, ont été lancés après le rassemblement pour la jeunesse en Pologne avec Jean-Paul II. Et les scouts équestres avaient inventé ce rosaire pour la vie en faisant un chemin de croix qui allait d'Auschwitz à Częstochowa. Mais c'était en 1991. Et donc, les rosaires pour la vie eux-mêmes datent de 1991.
Très bien, docteur Villette. Écoutez, alors, donc c'est tous les premiers, à partir de maintenant, tous les premiers samedis du mois, c'est ça?
Toujours, depuis 1991.
Depuis 1991, mais là, vraiment, ça commence à prendre. Vous nous dites qu'il y a de plus en plus de ralliement à la bonne cause.
Voilà.
Donc, le premier samedi d'avril à 17h, devant Notre-Dame et devant toutes les cathédrales de France.
Non, dans
Notre-Dame.
Dedans.
On c'est peut ça se retrouver devant aussi, d'ailleurs.
Il y a eu au début pas mal de tirages avec le clergé qui n'était pas tout à fait d'accord pour ce qu'on faisait parce qu'on ne demandait pas la permission. On y allait parce qu'on ne pouvait pas nous empêcher d'y échapper. Et puis maintenant, c'est toléré. Il y a même des évêques qui recommandent, comme l'évêque d'Avignon. Mais ça rentre dans les mains.
Ils deviennent vraiment très arrangeants. Ils en arrivent à tolérer qu'on dise le chapelet dans les cathédrales. Un jour ou l'autre, ils finiront par accepter qu'on fasse la messe, quoi, pratiquement. Hein.
Oui, mais vous savez, pour la petite histoire, je ne dirais pas quel était le curé de telle cathédrale, mais un jour, ma femme faisait une photo d'un groupe de rosaires pour la vie, et elle s'est fait attaquer parce que on lui a dit non, pas de photo. Alors, elle a gardé son appareil photo, et puis elle a dit, dans un éclat de rire, tous les gens là qui font des photos, c'est quoi? Il y avait pas mal de Japonais. Hein. Bon, je ne dirais pas quelle était la cathédrale.
C'est compliqué à deviner. Enfin, on va voir, on va chercher.
Et alors, le brave curé a répondu, ah oui, mais les autres Japonais, ils photographient pas des intégristes.
Ouais, c'est ça. Bien, docteur Villette, merci.
C'était pour le petit sourire.
Oui.
Je peux donner l'adresse pour tout renseignement. Ou tout au moins un téléphone, c'est peut-être plus simple pour
Un téléphone, c'est très bien.
04 75 25 11 88.
04 75 25 11 88, c'est le téléphone où vous pouvez avoir tous les renseignements sur les rosaires pour la vie.
Voilà.
Merci docteur, à
bientôt.
Bientôt.
Au revoir.
Alors Michel, maintenant on change vraiment radicalement de sujet puisque on revient à votre livre Apocalypse Show qui raconte l'histoire extraordinaire qui a été la vôtre. Alors vous étiez jeune bidasse, jeune Jacques comme on disait à l'époque. Et racontez-nous comment ça s'est passé.
Ben, j'étais jeune bidasse, comme vous dites, j'étais dans l'armée de l'air d'autant plus, vous savez, j'ai viré de l'aile, comme qui dirait, carrément, en faisant du music-hall quelques années plus tard. Mais il faut vous dire que la partie que le livre de
Docteur... Vous étiez navigant, vous n'étiez pas gonfleur d'église.
Tout au début, oui. J'étais navigant pendant 3 ans seulement. Et après, bon, je me suis retrouvé à terre avec mon violon d'Ingres, heureusement, qui était la musique et le music-hall et la chanson, etc. Et mon aventure n'a pas commencé en Algérie, contrairement à ce que raconte le petit livre de 1962-63, je ne sais plus. Excusez-moi. Mais elle a commencé en Indochine. Oui, je suis parti au Vietnam en 1900.
En Indochine à l'époque.
Oui, en Indochine à l'époque. Il y avait le Vietnam du Nord, le Vietnam du Sud quand même,
vrai,
déjà.
Oui.
Le Cambodge de Laos, formant le tout, l'ancienne Indochine, étant formé par ces territoires. Et j'ai commencé là-bas, donc de 51 à 54, 52, 53, pardon. Avec un ami qui m'a laissé la direction du ce qu'on appelait le théâtre aux armées, pour être plus clair, mais sous une forme de music-hall, mais de music-hall complet, vous savez, avec des chanteurs, des chanteuses, des acrobates, des magiciens et tous ces gens-là. Et puis, et bien, de là-bas, d'Indochine, de tout le nord du Tonkin, depuis le nord jusqu'au sud, en passant par le centre, On a parcouru l'Indochine comme ça pendant des années, jusqu'aux portes de Dien Bien Phu. On a eu beaucoup de chance parce qu'on n'a pas été... On n'a pas été pris sur les aventures de Dien Bien Phu, sur les lamentables aventures de Dien Bien Phu. Et on s'en est tiré avec les honneurs de la guerre, si j'ose dire. Avec nos chansons, avec nos clowneries et avec tout. Mais enfin, c'était notre force de frappe à nous. C'était la chanson, le rire, l'intérêt. Mais il faut bien le dire à quel prix. C'était pas tout facile.
Et donc, ensuite, vous rentrez en Occident, après l'Indochine.
Après l'Indochine et après avoir vécu moult aventures, on pourrait être là demain matin et je ne sais pas si j'aurais fini. Donc je suis rentré sur la France, sur la Tunisie, avec beaucoup d'interrogations dans ma tête, en disant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pas faire. Et puis je me suis dit qu'après tant de vie active, de cette vie un peu complètement folle, il faut bien le dire, parce que je me suis dit pourquoi pas ne pas recréer le théâtre aux armées en Algérie alors que je me trouvais en Tunisie, dans l'armée de l'air toujours. Et puis je suis sauté dans un avion un dimanche après-midi, je suis parti au base des officiers de garnison de la ville d'Alger, où j'ai retrouvé là évidemment tous les anciens Indochines, de toutes les armes, tous les légionnaires, tous les cavaliers, tous les aviateurs, tous les gens de toutes les armes, les marins, etc. Et qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fous à t'emmerder en Tunisie? Il faut reconstruire le théâtre aux armées en Algérie. Et c'est là que le général Salan, que j'avais connu en Indochine, qui était aussi notre soutien en Indochine, comme vous le disiez hors micro tout à l'heure, ça a été un petit peu notre impresario, notre premier impresario.
Salon impresario, c'est quand même pas mal.
Oui. Et donc, nous sommes repartis sur les routes d'Algérie. C'était une gageure énorme parce que se retrouver brutalement, non pas avec d'autres corps d'armée, c'est pas ça, mais avec un autre peuple dans un autre pays, avec un climat différent, une vie totalement différente. Et ça, je dois dire que ça m'avait pas tellement effleuré l'esprit, et pourtant.
Mais là, attendez, quand vous dites vous êtes retrouvé sur les routes, que ça s'est passé comment? Vous aviez une caravane, vous aviez des...
Oui, quand je suis rentré en Algérie, évidemment, il a fallu tout reconstruire d'un bout à l'autre, c'est-à-dire demander au commandement de nous fournir le matériel adéquat, à peu près analogue de celui que nous avions en Indochine, et si possible mieux adapté. Ce qui fait que nous disposions d'un camion sur lequel était adoptée une scène, un petit peu comme les, vous savez, ces scènes que l'on rencontre en province,
mobiles,
en France, c'est ça, oui. Et à l'intérieur, ça nous servait de loge, un petit peu de couchette, un petit peu de tout. On avait un camion de matériel et puis une jeep pour nous transporter d'un poste à l'autre, ce qui n'était pas toujours évident d'ailleurs pour se rendre d'un poste à l'autre parce qu'on se rendait absolument partout.
Et vous étiez combien à faire ça?
On était toujours entre 9 et 12. Suivant les époques, suivant les...
Mais pas en zone de rébellion, quand même.
Ah, si, partout. Pas comme en zone de rébellion. Bah, vous savez, on s'est fait tirer sur les fesses plus d'une fois, hein, en plein milieu du spectacle. Ah non, c'était quelque chose d'assez... C'était difficile à vivre, hein, parfois.
Donc, bon. Il y avait des hommes, des femmes?
Il y avait des hommes et il y avait des femmes. Et d'autant plus qu'en Algérie, j'avais réussi à faire ramener, à faire muter 4 anciens d'Indochine qui ont été l'équipe de base en Algérie, parce qu'en Algérie, mon équipe était quand même quelque chose qui avait beaucoup de différence avec celle d'Indochine. En Indochine, c'était que des gens, des militaires engagés, des militaires de carrière ou engagés. Tandis qu'en Algérie, nous, on a rencontré donc...
Le contingent.
Ah oui, on a rencontré les gens du contingent. Ce qui fait que j'ai eu autour de moi, pendant les années que j'ai passées à direction de ces équipes, de ce musical en uniforme, comme j'aime bien l'appeler, j'avais des gens qui sont devenus de grands artistes, tels que Daniel Gérard, tels que...
François de Gaulle aussi.
François de Gaulle.
Dont vous parlez, c'est vrai. Amusant.
Entre autres,
qui ont débuté leur, ils ont commencé leur carrière.
Pratiquement, ils avaient commencé leur carrière en France quand même, parce que c'est de cette façon que j'ai pu les récupérer.
François, vous vous souvenez de ça, vous, quand vous étiez en Algérie, vous souvenez d'avoir vu ces...
Oui. On l'entendait à la voix du bled.
Ouais. Qui était
il y avait un journal qui s'appelait La Voix du Bled.
C'était une émission beaucoup. De radio qui était tous les soirs.
Oui.
Il y avait La Voix du Bled et le quart d'heure africain présenté par Tchekoura.
Il y avait La Voix du Bled en Algérie, c'est vrai, en Indochine. Et c'était Radio Hirondelle là-bas. C'était, et puis aussi il y avait les émissions qui partaient du Sud avec entre autres à l'époque Jacques Chancel. Qui était un jeune reporter là-bas.
Ouais. Mais vous nous dites qu'il y avait Daniel Gérard, oui. qui est devenu après une immense vedette.
Qui est devenu une grande vedette.
C'est un grand musicien.
Ça a été Madame Butterfly, ça a été une grande des chansons qui ont très bien marché.
Nogel qui a eu des succès formidables. Vous me racontiez, quand on s'est rencontrés pour préparer l'émission, que un de ses plus grands succès, il les a écrits. Il l'a écrit
à plat ventre sur le toit d'un hôtel dans le milieu du Sahara. Oui, c'est vrai. C'est sa fameuse chanson qui lui a valu le prix du Coq d'Or de la chanson française. D'ailleurs, il était en plein Sahara quand on m'a envoyé un message qu'il fallait réexpédier De Gelt à Paris pour qu'il participe au Coq d'Or. Alors, il fallait lui offrir une permission exceptionnelle et tout un bazar. Mais il a réussi à partir sur Paris et à gagner le Coq d'Or de la chanson française.
Il y a une autre célébrité qui était dans votre... Alors, est-ce qu'il était en Algérie avec vous? J'ai pas bien compris. Majax.
Ah non.
Vous l'avez connu après.
Ah non, Gérard, c'est après, ça, c'est rentré en France. Ça. Ça, c'est une autre... C'est une autre relation. Ah oui, Majac, c'est un grand copain, mais qui connaît très bien toute l'histoire du théâtre aux armées, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler beaucoup.
Et alors donc, vous déplaciez de poste en poste...
De poste en poste.
Pour monter des spectacles à l'intention des bidas.
Parfois complètement inconscient, d'ailleurs, parce qu'on partait quelquefois de poste en poste, on oubliait de nous dire, ne partez pas seul, il vous faut une escorte, ou il faut quelque chose comme ça. Et on se retrouvait dans des chemins impossibles, criblés de Fellaga ou de Viet pour l'Indochine, ce qui n'était pas très recommandé, ni recommandable d'ailleurs, pour personne. Mais,
et avec des aventures extraordinaires, vous racontez un jour comment vous avez commencé le spectacle normalement, puis vous l'avez terminé dans un bain de sang, parce qu'il y a une
bombe. Plusieurs fois dans les bains de sang, oui, plusieurs fois.
Avec le chanteur qui descend et qui prend la mitraillette pour les protéger.
Ça allait tout arriver en Algérie, ça nous était arrivé à Bouira, ça. C'était quelque chose d'assez horrible, parce que en plein milieu du spectacle, d'ailleurs, il y a des bombes qui ont pété en plein milieu de la foule. Ça a été un bain de sang dans la foule, c'était un bain de sang partout. Moi, je crois que Dieu nous a protégés, nous, l'équipe du Théâtre aux Armées, parce que franchement, ça en est tous tiré qu'avec des égratignures. C'est vrai, quoi. Des égratignures parfois sévères, mais enfin, que des égratignures. Et c'était pas toujours évident, vous savez, parce que...
Alors, dans votre livre, l'autre livre raconte tout ça.
Oui.
C'est absolument passionnant, c'est pittoresque, c'est très amusant.
J'ai cherché à le faire d'une façon amusante. C'était absolument indispensable. J'allais pas me mettre à raconter l'Indochine et l'Algérie comme ça l'a été 100 000 fois. À partir du moment où on a dirigé une équipe comme ça, il faut donner un petit peu de couleur, un petit peu de saveur, un petit peu de tout, quoi, pour que le lecteur puisse être plus intéressé par les pays traversés.
Mais alors, il y a un autre aspect, alors qui est extraordinairement troublant quand on lit ce livre, c'est que c'est un véritable roman. Or, c'est pas un roman, c'est une histoire vécue. Chaque élément, chaque événement que vous racontez, vous l'avez vécu
tout
réellement.
À fait.
Et là-dedans, il y a une incroyable histoire, une histoire d'amour, comme
tout
dans tous les romans,
tout à fait.
Qui est celle que vous avez vécue.
Oui.
Mais c'est une histoire ahurissante.
En Algérie, oui. Ouais. J'ai eu une première histoire d'amour comme ça, en Indochine, qui était assez pittoresque aussi. Et vous l'avez pas retenue, celle-là, en lisant. Avec une fille qui était taxi girl. Dans les boîtes de nuit, là-bas, il y avait beaucoup de taxi girls à Saigon ou à Hanoï. Et cette fille, avec qui je dansais, que j'avais acheté pour quelques piastres, pour une danse, me dit, j'aimerais bien te rencontrer ce soir. Et puis je regarde cette fille, j'ai dit tiens, bon, c'est une putain comme une autre, quoi, mais passons. Et puis en fin de compte, non, c'était pas ça. Elle me dit non, j'ai envie je voudrais que tu me fasses un enfant. Moi, je l'ai regardé, j'étais quand même un peu hurlée, elle est quand même un peu gonflée, cette fille. Elle m'a dit non, parce que moi, je rencontre des bons mecs, et puis je me fais faire des enfants. J'ai deux enfants comme ça que je me suis fait faire par des militaires français, et puis j'aimerais en avoir un troisième avec toi. Vous pensez, j'étais un peu fier, hein. J'ai eu cette aventure, donc, en Indochine. En Algérie, c'est tout à fait autre chose.
Les suites, pour l'Indochine, vous ne savez pas.
Pardon? J'ai jamais su comment c'était terminé. J'ai jamais su si j'avais semé une graine quelconque là-bas. Je suis rentré sans le savoir. Et je suis rentré donc en Algérie en coupant en cours par la Tunisie, comme je le disais tout à l'heure. Et puis donc, j'ai fait connaissance d'une fille absolument sublime, une très belle Algérienne, qui faisait du théâtre amateur et qui était à la fois faisait du d'intermédiaire et elle était aussi secrétaire au gouvernement général que vous avez dû connaître.
Ah, très bien.
Gouvernement
mais
général.
Pas la fille peut-être, François.
Peut-être pas la fille, mais
peut-être officielle. Pas.
Elle était là-bas, elle était secrétaire et elle faisait du théâtre amateur dans une des équipes où les Français, c'était là des gars d'ailleurs qui allaient voir les militaires aussi sur le terrain de temps en temps. Faisait du vrai théâtre armé, cela, si j'ose dire. Et cette fille, bon, on est devenu copain, puis c'est allé beaucoup plus loin, et puis ça a été la première fois à la danse du ventre chez elle avec des copines, et puis après ça a été, ça a été.
Enfin voilà, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais
il y a quand même une chose. C'est le droit à la vie dans tous les sens du terme.
Pardon?
Oui, c'est le droit à la vie dans tous les sens du terme.
Mais il y a une chose qui est très très extraordinaire dans ce que vous racontez dans le livre, c'est qu'en fait, c'est intéressant parce que ça permet, pour ceux qui n'ont pas connu l'Algérie, comme moi, ça permet de...
Les femmes,
oui, merci Nicolas, c'est gentil. Si c'est pour ça que tu es venu.
Bon, ça fait
moi je suis désolé parce que j'ai des enfants. Donc, pour ceux qui n'ont
je
pas connu
comme
l'Algérie, il y a ce portrait que vous tracez de cette jeune femme,
ouais.
Qui est donc tout ce qu'il y a de plus moderne, la femme moderne, secrétaire au gouvernement général,
ouais, ouais.
Avec tailleur, etc., qui fait du théâtre donc assez libéré, assez moderne.
Ouais.
Et puis quand elle rentre chez elle, alors elle
redevient. Oui, mais ce que j'ignorais justement à l'époque, c'est ça. C'est que vous savez, j'avais quand même affaire à une jeune fille musulmane, et ça, je ne voulais pas le savoir en fait. Hein. Moi, j'étais de passage. Elle venait passer quelques jours, quelques heures avec moi, mais j'avais devant moi une fille musulmane qui se cachait de tout et de tous pour pouvoir vivre une vie européenne, parce que le soir, quand ces filles, quand elles rentraient chez elles, enfin encore à cette époque, il fallait remettre l'Alger là-bas, fallait vivre avec les parents, vous avez connu ça, docteur,
oui,
très bien,
oui.
Et que c'était tout à fait une autre vie qui s'intégrait à la journée, et pour ces femmes, ce n'était pas évident. Alors, notre histoire d'amour s'est passée totalement en cachette, se passait tout en cachette, c'était la terreur, elle avait peur d'être vue avec moi, elle avait peur d'être vue, ça se passait chez une copine, on se rencontrait.
Et ensuite, vous avez découvert qu'il y avait encore un autre secret là-dessus.
Ah, mais il y avait un autre secret, il y avait même un grand secret, parce que cette fille, et c'est encore quelque chose que le docteur doit connaître, vous savez, le gouvernement général, au bout de quelques années, s'est trouvé infiltré par le FLN d'une façon absolument insensée, par tous ces gens qui avaient la nationalité française, pour la plupart.
Ah,
quoi.
Ben, tous.
Tous, oui.
Et
il était infiltré, c'était infiltré par le FLN. Et moi, évidemment, on visitait tous les postes et tout, on avait dit à cette fille, probablement, parce que ce sont des probabilités, je peux pas deviner moi ce qu'on lui disait, mais on l'avait cerné dans ce qu'on appelait une position de traîtrise, quoi.
C'était Matahari, en fait.
C'était Matahari, oui. C'était Matahari, et puis Matahari, que ça s'est...
Alors, il y avait un mélange... je ne vais pas raconter le livre, parce que ça serait dommage. Il faut vraiment le lire. C'est un très bon livre.
Oui, ça m'a servi.
Il y avait cet aspect d'une véritable passion amoureuse.
Ah, tout à fait.
Et il y avait le fait que vous étiez aussi quelqu'un qui lui faisait découvrir un univers qu'elle rêvait de découvrir, parce qu'elle était quand même...
Également.
Et puis, elle se servait de vous, probablement, elle était mandatée probablement pour essayer d'avoir des informations
sur
les mouvements.
Ce que je n'ai jamais su en profondeur, mais ce qui est apparu évident à la fin.
On n'en dit pas plus.
À la fin que je ne raconterai pas, parce que la fin...
voilà. Michel Le Guay, vous avez écrit un livre qui est tout à fait vraiment passionnant et qu'il faut lire. Pour comprendre un peu mieux.
Ben, c'est une autre description de l'Indochine et de l'Algérie déjà.
Et de l'Algérie. Oui, c'est surtout l'Algérie qui m'a frappé.
J'ai fait ça 45 ans, avec 45 ans de retard, je m'en excuse,
mais comme ça,
je sais pas, j'avais peut-être subi un traumatisme trop violent.
Mais apparemment, vous n'avez pas été trop malheureux, puisque maintenant, vous vivez en Afrique du Nord.
Je vis en Afrique du Nord, oui, depuis, vous savez, quand j'ai quitté l'armée, le théâtre aux armées et tout, je suis parti dans un autre domaine, puisque je suis parti à l'Olympia, où j'étais administrateur d'un secteur à l'Olympia, ce qui, j'avais pas quitté mon métier en fait. Hein. Et puis après j'en ai eu marre de Paris, je dois le dire clairement. Et je suis parti, je me suis retiré au Maroc, carrément. Je suis parti là-bas, puis ça m'a permis de me repositionner, de dire, bon voilà, j'ai envie d'écrire ça maintenant, de remuer les poussières, le grenier poussiéreux de ma mémoire, comme dirait je ne sais trop qui. Et puis j'ai tout remis sur du papier, et puis ça s'est passé.
Alors, ça s'appelle Apocalypse Show.
Apocalypse Show.
Comme un
show business.
Et c'est paru chez...
C'est paru aux éditions des écrivains. Mais c'est une fille qui s'appelle Christine, qui s'en occupe de chez moi. Je peux laisser le numéro de téléphone
oui,
de Christine
oui, bien sûr, bien sûr.
Si vous voulez en savoir
appelez
plus.
Donc Christine.
Si appelez donc Christine au 01 48 46 39 64. 01 48 46 39 64. Puis le cas échéant, mais moi je m'en vais demain au Maroc pour 15 jours. Pourrait m'appeler également ou m'écrire plutôt. Vous m'écrivez à une adresse où je n'habite pas, je précise tout de suite parce que je ne voudrais pas qu'on vienne me rendre visite. Oui. 94 boulevard Beaumarchais dans le 11e. Aucun problème. Vous m'écrivez là-bas, je vous répondrai. Mon courrier arrive là-bas, c'est pas un problème non plus.
Voilà, voilà. Merci Michel Le Guay. 94 boulevard
C'est moi qui vous remercie.
Alors, Le Guay, c'est L-E-G-Y. Michel, le prénom.
C'est moi qui vous remercie, Sir De Beguette. C'est la première radio que je fais pour ce livre, pour Acropolis Show. Et puis, je me viens d'apercevoir que Radio Courtoisie portait bien son nom. Et ça fait très plaisir.
C'est gentil. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
C'était reparti pour une... Ça doit être une bombarde, ça, non ? La bombarde.
Sûrement.
Alors, je dois, à la vérité, de dire que j'ai reçu un coup de téléphone d'une auditrice que je connais, qui est une dame charmante. Et c'est vrai que j'ai été méchant avec ce pauvre Pasquini qui est passé à l'Orient éternel. Donc, mais c'est une vieille querelle entre Charlie Hebdo et moi. Et cette dame dit, je suis une amie de Xavier Pasquini, c'était un être charmant et très intelligent, cultivé, et nous avions un repas ensemble une fois par an, et je suis, dit-elle, catholique. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que le plaisir, enfin la sympathie ou l'amitié qu'on a pour les gens, naturellement, en raison directe du contact qu'on a avec eux, je comprends que Pasquini, pour vous, madame, pouvait être un être charmant. Pour moi, c'était un ignoble salopard. C'est tout. Qu'est-ce que je vous dis ? On le regarde pas du même bout. C'est un type qui a écrit dans son journal à propos de mon père, il faut quand même que je raconte cette histoire, que mon père était une crevure. Bon, parce que mon père était sous-officier de Légion étrangère, mort à Dien Bien Phu, donc il dit, Beckett, je suis fils d'une crevure de la Légion étrangère. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit que moi, personnellement, j'étais pas porté à faire des procès pour moi, mais que là, pour la mémoire de mon père, mort pour la France, mort au champ d'honneur, j'allais lui faire un procès. Et donc, j'ai fait un procès à Pasquini. Mais comme Pasquini était franc-mac, et que la justice française est franc-maçonnisée jusqu'au trou des yeux, non seulement j'ai été débouté de ma plainte contre Pasquini, mais j'ai été condamné. Ce qui est extraordinaire. Ce mec écrit dans son journal que mon père est une crevure, et c'est moi qui suis condamné, et en plus je suis condamné à des dommages et intérêts, à une amende, et à payer l'avocat de Pasquini. Alors, ça fait que j'ai pas beaucoup de sympathie pour lui, quoi. Alors maintenant, il va voir mon père,
oui,
et puis ils vont s'expliquer entre eux.
C'est vrai que ça pousse pas à la sympathie, finalement.
Non, pas vraiment.
Voilà. On se sent pas poussé d'affection pour cet homme-là.
On n'a pas une brutale
poussée
de tendresse.
Non, voilà.
Bon, ceci dit,
je pense que
Dieu et son âme.
Les gens de Charlie Hebdo ont été de bons lecteurs de Mitterrand, grand initié, parce que le numéro de ce mercredi est truffé de références ésotériques à Mitterrand qui réapparaît sous la forme d'un spectre.
Qui reproche à Jospin de ne pas avoir pris Mazarine
dans son gouvernement. Et oui, ou également Jospin qui subit une transfusion avec comment appelle-t-on ça, au bout du fou,
la tête de Fabius au bout du tubulure de la perfusion.
C'est assez méchant.
C'est assez méchant.
J'espère qu'ils vont pas être poursuivis comme on avait été à Minute. Ouais. Alors, François Plantet, merci d'être venu, Nicolas Bonnal aussi. L'idée que j'avais, c'était de vous demander ce soir, d'habitude, on ne soit pas vraiment pour des questions professionnelles, mais là, en ce moment, il y a une espèce de flambée de freudisme.
Oui,
on est en train de nous expliquer que Freud, vraiment, c'est un type formidable. Alors, il doit y avoir un centenaire quelconque, centenaire de crevaison ou quelque chose comme ça. Et donc... j'aimerais bien que le point de vue du psychiatre, et non pas du psychanalyste, car c'est pas du tout la même chose.
Ça n'a rien à voir.
S'exprime ici. Et Nicolas est là pour... parce que d'abord, on a toujours le plaisir à l'avoir avec nous. Et puis parce qu'il peut peut-être donner, apporter cum grano salis, avec un grain de sel, sa participation à la conversation. Alors, la première question, on dit que parmi les héritiers de
Sigmund,
que Sigmund est un héritier de, au même titre que Marx, de l'inventeur de l'évolutionnisme, notre excellent camarade Darwin.
Oui.
Donc qui aurait enfanté deux monstres, Phobos et Deimos, sous les espèces de Marx et de Freud. Est-ce que vous les mettez vous aussi sur les mêmes même plan de nocivité?
Oui, il tape à deux niveaux différents de la connaissance. Je crois que c'est un sujet difficile parce que c'est tellement faux comme théorie que ça épuise les possibilités de discussion. On ne sait plus par quelle boule prendre tellement c'est faux. C'est comme, je ne sais pas, si on essaie de ramasser un tas de mélasse, quoi. Il y en a qui part de partout. Bon, il est évident qu'à cette époque-là, la tentative générale, c'est une réduction du supérieur à l'inférieur. C'est clair que l'évolution, c'est... Je vais vous montrer que Léonard de Vinci descend du rat d'égout par l'intermédiaire de l'amibe et du lactobacillus, machin. Alors, c'est clair, hein. Et de même, notre camarade Freud, c'est je vais vous montrer ce qui se cache derrière la sainteté, la grandeur, l'honneur, la vérité, etc. Il ne se cache que derrière le masque des pulsions gluantes qui s'en mêlent, etc. Donc en fait, il s'agit d'une tentative matérialiste. Parce que par un extraordinaire paralogisme, la psychanalyse apparaît vis-à-vis de la vraie médecine mentale, qui est le traitement des désordres par la pharmacologie ou d'autres méthodes, comme quelque chose qui serait une espèce de philosophie humaniste. C'est-à-dire que moi, au début, bien avant que j'ai eu l'intention de m'occuper du cerveau, puisque ma première vocation c'était la chirurgie cardiaque, dès que les médicaments sont apparus, il y a eu des hurlements d'horreur de la part des freudiens, mais c'était abominable, c'est des traitements mécaniques, etc. Alors que l'inconscient dynamique, puisque c'est comme ça notamment que l'appellent les anglo-saxons, c'est un système totalement matérialiste de pulsions qui sont des forces purement biologiques. Freud d'ailleurs était private docent de neurobiologie. Il a fait sa thèse, je crois, sur le ganglion natatoire du homard, enfin oui, un truc passionnant, à la station biologique marine de l'Université de Vienne à Trieste. Et il écrit dans ses œuvres complètes, que Samtel Verke, il dit... Les pulsions seront un jour contrôlées par des lois pharmacologiques. Mais évidemment, personne ne lit les 30 bouquins de Freud qui servent surtout, je pense, pour monter des armoires, asseoir des petits-enfants pour leur soupe. Et donc, on peut dire avec certitude que la psychanalyse a été une tentative de déshumanisation de l'homme. Hein. Le grand, très célèbre psychologue de Harvard, John Marmor, non, Alport, écrivait dans les années 60, je crois. Il disait, la psychanalyse est la psychologie de ce qui, dans l'homme, est le moins humain. Hein, c'est assez extraordinaire, quand même. Hein. Mais je crois qu'une des plus belles citations qui m'a marqué, c'est celle de Sir Peter Medawar, qui a eu le prix Nobel pour l'Australie, et qui disait, ce que nous reprochons à la psychanalyse, c'est pas qu'elle guérit pas les malades, parce qu'il dit, en médecine, il y a un nombre énorme de traitements qui n'ont aucune efficacité. Mais il disait, c'est surtout parce qu'elle est le principal obstacle à la connaissance des causes réelles des maladies mentales. Ça, c'est évident. Il est évident que même maintenant, la psychanalyse, qui est une espèce de... C'est une sorte de secte, il faut bien le dire, hein, fondée sur une doctrine que je qualifierais même pas d'ésotérique, mais d'occulte, a retardé énormément le développement de la médecine des maladies mentales en écartant d'abord de cette spécialité les meilleurs d'entre nous. Dans ma promotion d'interne, il y en avait toujours un ou deux qui choisissaient de faire la psychiatrie. Ils étaient considérés comme des malades. Le jour où je suis passé de la chirurgie cardiaque à la psychiatrie, les gens ont pratiquement pris le deuil. Hein. Et donc ce poids continue à peser, hein, en dépit des progrès gigantesques qu'a fait la médecine et qui sont souvent complètement désynchronisé avec ce qui se fait en réalité. Et on a vu revenir récemment sur le terrain.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, François, quand vous dites désynchronisé par rapport...
C'est-à-dire que les progrès théoriques sont immenses. Par exemple, l'électroencéphalogramme informatisé, les caméras positrons qui permettent de suivre l'évolution de la pensée malade dans le cerveau. Notamment mes maîtres de l'Iowa City, chez Georges Vinocur, qui est décédé maintenant et qui a été remplacé par Nancy Andreessen et Robinson, ont développé des stratégies avec les caméras positrons qui permettent, en injectant un sucre marqué avec des substances radioactives, de suivre les foyers où se concentre cette substance et donc, ensuite, avec un programme qui colle ça sur une image de résonance magnétique nucléaire, de suivre online le développement des pensées. Donc on peut savoir où naît la maladie.
C'est-à-dire, voilà, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que une maladie mentale, c'est un dysfonctionnement mécanique ou chimique.
Oui, c'est évident.
Hein. D'une partie du cerveau.
De toute façon, ça a toujours été, depuis aussi loin, depuis, je sais pas, le papyrus Héber qui est à Chicago, le code d'Amourabi, jusqu'à tous les théologiens du Moyen-Âge, tout le monde a toujours été d'accord pour dire que les maladies mentales étaient des maladies des humeurs.
Hein. Alors justement, comment une évidence aussi admise par la totalité des êtres humains intelligents depuis l'origine des temps a-t-elle pu être d'un seul coup battue en brèche par un seul type qui a prononcé, qui a émis des théories qui sont aberrantes?
C'est très mystérieux.
Il y a le problème de la contre-initiation qui se pose dans le cas de Freud, à savoir qu'il distribuait des bagues à ses disciples, de fameuses bagues avec de curieuses figurines, et que lui-même, en débarquant aux États-Unis en 1938, déclare ces gens-là ignorent que nous leur apportons la peste. Lorsque j'ai écrit mon livre sur les stars, j'ai pu constater sur la damnation des stars que la principale cause des morts des stars, commencée par la plus fameuse Marilyn Monroe, mais de toutes les stars à l'époque, ça a été la psychanalyse. C'est la psychanalyse qui amène des catastrophes. Et à partir des années 70, il y a usage en général des médicaments avec l'alcool, dans le cas de Jimi Hendrix. Et puis, depuis 20 ans, comme justement la psychiatrie sérieuse dont parle François a fait des progrès, on ne parle plus tellement de damnation des stars. Elle s'est un peu écroulée. Mais la période de damnation, Guénon en parle très bien dans Règne de la quantité, le signe des temps, correspond au méfait de la psychanalyse, avec cette fameuse phrase de Freud au milieu du 19e siècle, qui dit « Si flétere supera neco a quaranta movebo, si je ne peux pas », il recite donc Virgile, le chant 6 de l'Énéide, « Si je ne peux pas remuer le ciel, j'irai remuer les enfers ». Donc il y a une volonté contre-initiatique évidente.
Alors, ça c'est encore une fois une parentèle très étroite avec Marx, qui est un adorateur de Satan, qui écrit des poèmes d'adoration et de prosternation devant Satan. Donc là, chez Marx comme chez Freud, on retrouve cette espèce de contre-initiation.
Alors il y a cette contre-initiation plus ce côté de parodie scientifique chez les deux qui donne dans le grotesque. C'est-à-dire que toutes les analyses de Tocqueville sur la démocratie sont incroyablement justes. Toutes les analyses de Marx sur le capitalisme ont été incroyablement démenties par l'histoire. C'est-à-dire que Marx annonce le règne effrayant des inégalités. Tocqueville annonce plutôt l'avènement du resserrement de ces inégalités, d'un homme moyen médiocre, d'un homme sans qualité, et d'un homme écrasé par l'État et la sécurité sociale, et par le politiquement correct. Donc c'est Tocqueville qui est scientifique, dans ses prédictions comme dans son comportement, et Marx qui a une approche complètement magique et satanique dessus. Donc, oui. Je rappelle à cet égard l'admirable livre de Philippe Muret dont j'ai parlé déjà, Le 19e siècle à travers les âges, qui explique bien que tous ces écrivains, Victor Hugo, Gérard de Nerval, etc., qu'on a pu aimer, et moi le premier à certaines époques, sont avant tout des poètes de Satan, et qu'il y a cette volonté absolue de détruire le catholicisme par tous les moyens, que le matérialisme n'y suffit pas. Donc on balance n'importe quelle théorie luciférienne pour essayer de retourner tout ça.
Alors un auditeur, je crois que c'est un auditeur, dit « J'ai chez moi un livre du docteur Gauthier, endocrinologue, qui démontre que Freud est un fou lucide, catégorie extrêmement rare ».
Oui, ça, je pense pas que ce soit un fou. C'était un personnage sûrement très intelligent et
je crois qu'on pourrait résumer de la façon suivante. Freud, dans un éclair de génie professionnel, a inventé la psychanalyse destinée à rendre les patients conscients de leur subconscient. Puis il est allé plus loin puisque en se psychanalysant lui-même, il a pu prétendre être conscient de son propre subconscient, si bien que ses malades ont pu être conscients de son subconscient à lui inconsciemment. Comme on voit, c'est simple à comprendre.
C'est très bien.
Alors, revenons à ce que vous disiez, François.
Ce qui s'est produit à ce moment-là, dans cette subversion fantastique, c'est que le spirituel a été remplacé par le psychique, qui est sa caricature. Parce que l'idée générale de la psychiatrie dynamique, donc de Freud, c'est que tout ce qui naît de plus élevé, ce qu'il appelle le surmoi, naît de pulsions gluantes par l'intermédiaire d'une autre instance qui s'appelle le moi, et qui est déjà, ces trois instances sont déjà un remarquable paralogisme, parce que, comme le faisait remarquer mon vénéré maître, professeur Frankl de Vienne, il dit, on voit le moi se tirer des marées du ça par les cheveux du surmoi, quoi, ce qui est une image absolument splendide, et il ajoute, on n'a jamais vu personne réussir à se soulever par ses propres souliers.
Oui, c'est ça.
Alors, le psychique là-dedans, c'est quand même, là il faut revenir à saint Paul, et je crois que c'est dans l'épître aux Thessaloniciens, hein, l'homme psychique ne juge de rien, l'homme spirituel juge de tout. En fait, toucher le psychique, qui sont les forces dégénérées, c'est le système nerveux autonome qui est sous le cortex, qui contrôle la faim, la soif, la sexualité, et qui est une source permanente de souffrance ou de plaisir, représente, c'est en quelque sorte, hein, la zone de ces pulsions. Mais ce psychisme-là, il est malade, c'est pour ça, il est autonome, et on a le devoir, par la maîtrise de soi, de bien se tenir, de pas être boulimique, de pas tirer sur les gens dans les rues, donc c'est la maîtrise de ces forces psychiques. Or, ce que veut faire Freud, c'est lâcher, en quelque sorte, ses démons. C'est acquérantes mauvais beau. Hein, c'est-à-dire, et là, je crois qu'il faut citer un père de l'Église qui est très important, Maxime le Confesseur, qui dit, on ne guérit pas plus le psychique avec le psychique qu'on éteint le feu avec le feu. Hein. Ce qui explique pourquoi le nombre des suicides chez les psychanalystes, y compris dans ma propre promotion d'interne, est extrêmement élevé. Parce que, comment voulez-vous guérir ce qui est précisément malade? C'est ce qu'on voit, par exemple, dans les névroses obsessionnelles, les troubles obsessifs compulsifs. Les gens luttent contre leurs troubles de vérification avec la même partie du cerveau qui est malade. Donc, plus ils essayent de s'opposer à la vérification, plus elle devient intense. Or,
justement, un auditeur pose une question. Il dit, oh, médecin, est-ce que les troubles obsessionnels compulsifs empruntent un circuit matérialiste?
Bien sûr. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, moi, un circuit matérialiste, parce qu'il y a peut-être des circuits non matérialistes, mais ça, c'est, il faut s'adresser à
des circuits de Formule 1 aussi.
Voilà. Mais les troubles obsessifs compulsifs sont parmi les troubles les plus connus, et on commence à connaître la neuroanatomie fonctionnelle de ces troubles. Par exemple, ça implique l'hippocampe, le gyrus parahippocampique, le cortex sous-orbital du lobe frontal, on le voit. Hein. C'est-à-dire que dans les manipulations de Nancy Andreessen avec les caméras positron, ils ont mis au point des expérimentations intelligentes où on demande aux gens de déclencher les obsessions. Et à ce moment-là, la caméra enregistre, et on voit très bien. Et au moment où on utilise une stratégie, par exemple, comportementale ou cognitive pour arrêter l'impulsion, la compulsion, on le voit s'arrêter. Mais on le voit aussi à l'électroencéphalogramme. Moi, je le vois constamment. Je dis aux patients qui ont ce genre de... à quoi vous êtes en train de penser? Et on le voit. Hein, on voit surgir entre deux électrodes qui sont en regard de l'hippocampe une activité électrique. Donc, mais le contraire est inimaginable. Ce qui fait que, comme dit Frankl, la psychanalyse, dit-il, se met des œillères non pas à droite et à gauche, mais en haut et en bas. C'est-à-dire en bas, ça nous coupe complètement en fait de la biologie, bien que ça soit une théorie totalement biologique. Et vers le haut, elle nous coupe complètement de la transcendance par son espèce d'ironie petite bourgeoise qui vous dit ah je vais vous faire voir qu'est-ce qui se cache devant la grandeur, la beauté, etc. Et comme dit Frankel,
il y a une espèce
en
de
démasquant, en souillant, voilà, il dit le démasquage aboutit en fait au cynisme du démasqueur.
Et d'ailleurs, c'est amusant parce que y a des réactions hostiles à ce que vous dites.
Ça m'étonne.
Et elles sont toutes frappées par cette espèce d'enragement. C'est curieux. Parce que, un médecin pied-noir, neurologue et psychiatre recommande au docteur Planté d'être très prudent sur ses propos à propos de Freud. Bien sûr, le ridicule ne tue pas, mais il existe des naufrages de la pensée, signé un ancien élève de la faculté de médecine d'Alger de Paris.
Et justement, j'ai vu pas mal de naufragés au cours de ma carrière déjà relativement longue.
Et un professeur de la faculté de médecine de Paris, qui serait plus convaincant s'il nous avait donné son nom, parce que...
Oui, c'est sûr que...
Hein. Nous dit, je considère que les propos actuels tenus sur la psychanalyse par quelques irresponsables déshonorent Radio Courtoisie. Cette pauvre Radio Courtoisie, parce qu'on doit être déshonoré par les gens qui parlent sans micro. France Inter n'est déshonoré par rien, Skyrock n'est déshonoré par rien, mais Radio Courtoisie, quand on dit du mal de Freud, on est
professeur Freud. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que Freud ne représente plus rien. Moi, j'ai vu, quand j'ai commencé en 69 l'étude de la psychiatrie, j'ai tout de suite compris, hein, parce que je voyais les malades et je me disais, j'étais pourtant dans une clinique universitaire réputée, je me disais, il vaut mieux ne pas être malade, parce que ça se passait comme ça, le patron arrivait, il parlait un peu comme Giscard d'Estaing, je dis, oui madame, qu'avez-vous, c'est cela, puis après il se tournait, il disait, mais mon cher Blanté, vous choisirez un médicament, n'est-ce pas, alors moi je connaissais rien, j'allais dans le Vidal, je cherchais névrose, et puis je prenais foutrate de machin, et puis voilà, hein. C'était...
Combien de morts
j'oserais pas, hein, j'oserais pas le dire, j'ai oublié. Alors, au fur et à mesure, c'est à ce moment-là que je suis parti aux États-Unis parce que j'ai compris ce qu'il fallait faire et j'ai vu diminuer régulièrement au fur et à mesure des découvertes la quantité dans les journaux, les journaux scientifiques, la part prise par la psychanalyse qui n'a cessé de se réduire. Jusqu'à disparaître pratiquement complètement au fur et à mesure qu'on trouvait la neurochimie des dépressions, la façon dont la génétique fonctionnait dans les dépressions, l'électrophysiologie des dépressions, c'était plus tenable. Enfin, je veux dire, aux États-Unis, on soignerait un déprimé par la dépression, il se suicide, il est clair que le gars, il va en prison. Hein, pour 20 ans de prison, c'est une faute professionnelle grave. J'arrive pas à comprendre comment une vieillerie aussi grotesque, parce que il faut savoir quand même que la psychanalyse ne guérit que ceux qui croient qu'ils sont guéris. Hein. Et dans une étude très importante de Marx, un anglais, rapportée dans un bouquin qui s'appelle Five Essays on Psychoanalysis, qui est publié chez Pergamon Press.
5 essais sur la psychanalyse.
Voilà. Ils ont étudié des gens en cours de psychanalyse et comme groupe de contrôle, ils ont pris les gens en attente parce qu'à l'époque, c'était très prisé quand même, psychanalyse. Donc, ils avaient un groupe très homogène. Or, au bout de 6 mois, le groupe en attente s'était amélioré très significativement par rapport au groupe traité, quoi. Et lequel s'était aggravé.
Ça, c'est en double aveugle, une réussite totale.
C'est une réussite totale et grandiose. Hein.
Mais ça fait penser au keynésianisme. Et à la volonté de retraiter socialement les gens pour en faire des adaptés sociaux. Et c'est comme ça qu'on a désorganisé toutes les familles, par exemple, de l'immigration, ou toutes les familles à coup de traitement social et d'assistante sociale. C'est-à-dire que le remède est pire que le mal. Et ça, c'est vraiment la ruse du diable type de cette fin des temps.
Mais il y a une vieille histoire qu'on raconte.
C'est Bouvard et Pécuchet, on en parlait tout à l'heure au téléphone, Bouvard et Pécuchet auraient fait de la psychanalyse.
Certainement, ils ont ouvert un cabinet.
Et aujourd'hui,
un lacanien
et un jungien.
Mais... il y a une histoire qu'on raconte, une vieille histoire qu'on raconte toujours pour se moquer de la psychanalyse, qui le mérite bien d'ailleurs, c'est l'histoire du gars qui dit, moi je faisais pipi au lit, et grâce à la psychanalyse, ça va beaucoup mieux. Alors il dit, pourquoi tu fais plus pipi au lit? Il dit, si, mais maintenant je m'en fous. Donc, est-ce que ça résume le mécanisme?
C'est vrai, il y a une sorte aussi de croyance désespérée. Une fois que les gens sont rentrés là-dedans, ça devient comme une drogue. C'est comme les diseuses de Bonne Aventure ou des choses comme ça. Ça devient comme une drogue et les gens se persuadent qu'ils sont en train de guérir tout en étant au bord du suicide. Ça c'est des phénomènes qu'on voit constamment, hein, au point d'arriver à des états gravissimes, hein, comme par exemple dans les anorexies mentales. Nous on voyait arriver à Iowa City des femmes qui pesaient 20 kilos, quoi. hein, qui était traité par la psychanalyse à New York depuis 5 ans hein, pour des honoraires gigantesques.
Oui, c'est ça. En revanche, le compte en banque du psychanalyste,
oui. il grossit. Maintenant, ça a changé parce que maintenant, une dépression endogène, si on sait à peu près faire comme il faut, on est capable de l'améliorer en un jour, quoi, pratiquement. Hein. Alors que, bon, des histoires, on pourrait en raconter. George Gershwin a été psychanalysé pour une tumeur du lobe frontal, quoi, par exemple, entre autres.
Et ça n'a pas marché.
Ouais, c'est curieux. Hélas. C'est
voilà. Mais alors, au fond, la première question, on l'a évoquée tout à l'heure rapidement, et Nicolas est intervenu pour nous donner un des aspects de la réponse à cette question, qui est l'aspect contre-initiatique. Mais la vraie question, quand même, ça reste celle-là. Dans un univers qui était quand même un univers où depuis toujours, tout le monde était à peu près d'accord pour dire que c'était un problème d'ordre matériel, mécanique, chimique, etc., ou lié aux humeurs pécantes, comme on disait à l'époque, il y a un type qui arrive et qui dit, mais pas du tout, c'est...
Dans la deuxième phase de la contre-initiation, c'est-à-dire, François, c'est la phase que décrit très bien Guénon, de dissolution qui succède à la phase de coagulation, et la vague néo-psychique et néo-spirituelle, New Age, qui en fait ne débute pas du tout, comme on le pense, en Californie dans les années 1860.
Non, mais à Vienne, un siècle avant.
Débute même aux États-Unis en 1846 avec les sœurs Fox, qui entendent les esprits qui se collent au mur, et on appelle ces esprits les rapes. Et c'est de là que vient le mot rap, donc c'est-à-dire des spectres qui hantent les murs. Et Darwin, on est pareil dans le même délire pseudo-scientiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que Lucie n'était pas Lucie, que les Israéliens n'étaient pas d'Afrique, qu'on nous déplace d'un million d'années nos origines. Enfin, c'est n'importe quoi, constamment. C'est cette science non créationniste. On va en énerver, mais là, c'est bien.
Je connais un Michel qui doit être en train d'escalader les murs de son studio.
Mais... ça devient énervant. Et donc, sur Darwin, il y a des textes qui datent du XVIIe siècle en Angleterre, écrits par des pasteurs fous, qui disent « l'homme descend du singe ». Donc c'est une vieille envie de dire que l'homme descend du singe.
Il faut dire que dans les deux cas, Darwin et Freud, tous les deux étaient des déprimés chroniques. Il y a eu un article très intéressant récemment dans l'American Journal of Psychiatry. Freud était visiblement un désordre endogénomorphique, c'est-à-dire qu'il se shootait la cocaïne dans ses lettres à sa fiancée, ça apparaît très nettement. Darwin avait des crises de dépression majeures et vous savez que souvent dans les dépressions...
C'est vrai que quand on découvre que son grand-père est un singe, il y a des...
pas plaisir, quoi. Surtout qu'il avait une vague ressemblance, finalement. Mais sur ce passage, d'abord, la psychanalyse s'est pas tout de suite imposée, mais surtout, ce qui était du domaine des asiles, ça relevait pas quand même de l'élite de la médecine, il faut bien le dire. Hein, c'était un peu, hélas, comme maintenant. Hein, c'est-à-dire que le major de l'internat, c'est rare qu'il aille faire de la psychiatrie. Il fait plutôt de la cardiologie ou une autre spécialité prestigieuse. Et à ce moment-là, la psychanalyse s'est imposée pour expliquer des désordres subtils et complexes, comme l'hystérie, par exemple. L'hystérie que l'école où j'étais, qui est à l'origine du DSM-4, a rebaptisé syndrome de Briquet, en hommage au clinicien français Briquet, un neurologue de la Salpêtrière, qui avait remarquablement décrit cette entité qui est effectivement complexe et qui échappe à la neurologie grossière, hein, mais qui n'échappe pas à la neurobiologie moléculaire subtile. À ce moment-là, Freud a amené son explication qui est magique. Je crois que ce qu'il a fait, c'est qu'il a occupé un terrain où il n'y avait personne, et en même temps, il a sorti, comme dit Nicolas, une espèce d'abominable caricature néo-spiritualiste, alors que c'est du psychique coagulé. Ça, c'est un des paralogismes les plus extraordinaires.
Mais comment ça peut marcher? Parce qu'à l'origine, il s'agit d'un petit bonhomme dans un appartement de Vienne qui émet une théorie.
Oui,
on pourrait imaginer des gens comme ça, il y a 50 000 par jour qui s'activent et qui disent n'importe
c'est
quoi.
C'est contagieux.
Et puis ça subit le sort que ça mérite, c'est-à-dire ça n'existe pas. Tandis que là, ça devient un phénomène.
Je me suis posé la question quand j'ai commencé j'ai fait un choix d'externe, je pensais pas du tout faire de la psychiatrie, dans une grande clinique universitaire. Et alors j'ai constaté deux choses, l'extrême tristesse des gens qui étaient là, évidemment les malades qui n'étaient pas soignés, le nombre de suicides et l'ambiance épouvantable. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, de même quand je suis vraiment rentré dans la psychiatrie et la neurologie, je me suis rendu compte que cette ambiance épouvantable était liée ontologiquement, quoi, cette structure, avec la psychanalyse elle-même, puisque on représente une image d'homoncule, hein, si j'ose dire, hein, où il n'y a plus aucune place pour la transcendance. tout est fait par des rationalisations secondaires, comme dit Frankl dans son merveilleux livre. Il dit, moi, en ce qui me concerne, je suis pas prêt à me faire tuer pour mes rationalisations secondaires. Hein, voilà. Hein, ni pour mes pulsions, machin. Or, au bout d'un moment, c'était réellement insoutenable. Et surtout, un jour, j'ai dit, il faut penser quand même à guérir les malades, et quelqu'un m'a dit, guérir les malades, donc tu es un médecin nazi.
Voilà, c'est ça. Voilà, alors, un auditeur nous dit, vous n'aimez pas Freud parce que vous êtes antisémite, et vous voyez, donc, les gens qui guérissent les malades sont des nazis, bien sûr. Oui, puisque
j'espère que mon arrière-grand-père, qui devait être un grand rabbin sous Sainte-Thérèse d'Avila, me protégera dans cette accusation grotesque.
Il faudra le faire comparaître. Bon.
Parce qu'il se trouve que les maîtres vénérés dont j'ai parlé.
Non, mais je le dis, cet
auditeur plaisantait. Ah oui.
Pris au deuxième degré.
Bah, Freud lui-même était quand même assez antisémite parce que ce qu'il a fait à Moïse, c'est quand même assez incroyable dans Moïse et le monothéisme, d'expliquer qu'en fait Moïse n'était en rien un juif, un hébreu, qu'il était un égyptien et qu'il a inventé sa religion de toutes pièces. Et là aussi, bon, c'est tellement grotesque qu'on en a les bras qui tombent, cette espèce
les
de.
Les bras qui les tombent. Bras,
ce révisionnisme, pour utiliser un terme à la mode freudien, sur l'origine de la religion de son propre peuple, qu'on peut qu'être étonné quand même.
Mais alors là, encore une fois, c'est parenté avec Marx, qui a proféré qui a tenu des propos d'hallucinés, littéralement.
Le contexte freudien, fin 19e siècle, Vienne, c'est le contexte aussi d'Hitler. Hein. Il faut aussi le remettre à sa place, même si Hitler est d'une génération plus jeune que Freud. Et c'est le contexte décrit par tous les grands écrivains de l'époque, Kafka, Musil dans L'homme sans qualité, Hermann Broch dans Les somnambules, et c'est un contexte qui pue. Et où d'ailleurs, à Vienne, on fête aussi constamment des festivités bidons comme aujourd'hui on ne cesse de le faire, des techno-raves, etc. Et ils essayent de faire des fêtes pour calmer la tristesse des murs locaux. Et c'est vrai que Vienne apparaît comme un centre mineur de la contre-initiation, comme Prague pour les raisons que l'on connaît. Mais alors, savoir s'il y a une réelle volonté derrière Freud pour amener cette technique, parce que c'est plutôt une technique de manipulation, c'est un autre problème, hein, ça on peut pas le savoir. Ce qui est amusant, on en parlait tout à l'heure avec François en venant à l'émission, c'est ce qui se passe actuellement. Il y a l'expo organisée par la mairie de Paris sur les démons de Haïti, parce que les gens croient qu'on délire quand on parle de ces choses-là là, sur Radio Courtoisie, mais c'est eux qui délirent tellement ils sont aveugles pour ne pas voir. Il y a les Pokémon, alors c'est François qui m'a alerté sur ce problème des Pokémon.
C'est de la folie, ça.
Oui, mais ça veut dire Pocket Démon. Donc il y a un site que je
n'ai pas déjà vu,
Démon de poche, et on invite les gosses à adorer ça. J'ai un ami qui a une petite fille.
Il faut expliquer un petit peu plus ce que c'est les Pokémon, parce que c'est vraiment c'est un phénomène de folie furieuse.
Oui.
Dans toutes les librairies, on voit un petit panneau à l'entrée, il n'y a plus de Pokémon. Ouais. Donc les gosses se jettent là-dessus, sur cette espèce de jeu.
Alors là, qu'on ne nous agace pas avec l'antisémitisme, parce que ça vient du Japon, les Pokémon. Donc, et c'est les Japonais qui ont fabriqué ça, comme ils ont célébré.
Je viens de mettre la main sur un document extraordinaire que je publierai dans le Libre Journal prochainement.
Bon, bah, tant mieux alors pour l'innovation. Ça s'est exporté. En venant ici, on est tombé sur une image, là aussi un site internet qui correspond, c'est la technologie va-t-elle répondre à tous nos fantasmes ? Donc là on est en plein délire luciférien. Actuellement c'est amusant, je suis en train de lire un livre sur Turing, l'inventeur de la machine artificielle et de l'informatique moderne, qui s'est suicidé en avalant une pomme trempée dans du cyanure et en chantant la chanson de la sorcière dans Blanche-Neige.
Dans Blanche-Neige.
Tu devais être comme lui alors.
Oui, il était homosexuel et son ami, là on va dire encore homophobie, blabla procès, enfin non, c'est pas grave, non, j'adore tout le monde. Et donc Turing avait un ami d'enfance et un amant d'enfance qui s'appelait Morcom. M-O-R-C-O-M, c'est quand même extraordinaire. Mort.com, mordor.com.
C'est assez fort.
On est en plein délire. Et donc, on constate que cet immense savant qui a créé l'informatique moderne était un malade. Il s'est d'ailleurs suicidé, lui, à 42 ans, en 1954. Donc, il y a toute une dimension magique dans la science moderne qu'on oublie. Alors, ce qui fait peur, par rapport à ce que disait François tout à l'heure, puisqu'on arrive à calculer les circuits de la pensée, c'est que cette idée des Pokémon, là, ils ont lancé le film, c'est Time Warner qui l'a produit, donc qui va être distribué en France. Time Warner, donc je rappelle, c'est maintenant associé par AOL, ce morceau d'espace qui vaut plus que le PNB de l'Afrique. Et AOL et Time Warner, donc, balancent des Pokémon. Et en même temps, il y a les Télétubbies. J'ai jamais vu un épisode des Télétubbies, mais enfin les Télétubbies. Oui, ça doit l'être. J'ai pas vu un épisode, mais ce que je sais, c'est que j'ai un ami qui a une fillette de 21 mois. Il a posé la gamine devant, elle a été aspirée par ça, et les gosses sont aspirés par le canal Jobien, par le mauvais canal, comme dit Job, par ces émissions-là. Donc c'est vraiment des émissions, au sens une émission satanique ou une émission de gaz pour anesthésier l'esprit. Donc j'invite les gens d'ailleurs qui nous écoutent, s'ils ne l'ont pas fait, à regarder le film que je t'ai passé tout à l'heure, Dark City. D'Alex Proyas, un chrétien égyptien qui a émigré à Melbourne, puis ensuite à Hollywood, qui est un génie visuel, et qui dépeint un monde qui est une ville toujours plongée dans l'ombre, qui est possédée par des étrangers, qui s'impose comme une espèce de caricature parodique, et qui efface tous nos souvenirs. Et qu'est-ce que font les médias systématiquement, sinon d'effacer systématiquement notre mémoire? Et Proyas, j'en parlais aussi à François, dit il faut développer le concept de paranoïa positive. C'est un type très jeune, hein, qui, ouais. qui a 35 ans. Et donc je sais qu'il y a une paranoïa négative qui entraîne vers la haine ou des horreurs qu'on ne saurait, etc. Et puis il y a aussi une paranoïa positive qui est soit quand même sur tes gardes.
Il y a une paranoïa qui dit c'est pas parce que le monde entier vous déteste que vous êtes paranoïaque. Alors, mes chers amis, quand même, il faut que je vous lise ce message. Somme de bêtises énoncées sur Radio Courtoisie depuis 18h30 est effarante. Alors donc, vous en avez votre part, mais pas tout. Ça commence bien avant.
Dieu merci.
Jamais une telle concentration n'a été atteinte. Vous avez dû perdre l'estime et l'abonnement d'un grand nombre.
Quel drame affreux.
Quel drame. Je ne pourrais pas changer de rôle cette année.
Mauvaise limonade.
Indiquez une quantité industrielle de messages qui disent bravo.
Puisque vous êtes opposé à Freud, vous êtes antisémite. Non mais ça c'est un gag. Ne pensez-vous pas que la freudologie relève plutôt de la littérature?
On peut.
Alors, maintenant, malgré l'intérêt... ça c'est quelqu'un qui me reproche de ne pas donner la parole aux auditeurs. Donc effectivement, si on lui donne la parole, ça fait mentir. Donc on ne va pas le faire mentir.
Hein, par c'est le fait. Très fort.
Ça. Pouvez-vous nous citer des ouvrages qui démontrent la théorie de Freud?
Un qui est fondamental dans son intelligence, c'est celui de Viktor Frankl, qui est alors lui un authentique génie, qui s'appelle La psychothérapie et son image de l'homme, qui doit être publié en français. Et puis, je crois qu'il y a aussi un psychiatre des portées témoines. Tout le reste est en anglais ou en allemand.
Hein. Il y avait Debré-Ritzen, la psychanalyse.
Oui, Debré-Ritzen, après.
Oui, mais c'est... Je pense que la critique de la psychanalyse de Frankl, qui était en même temps docteur en philosophie, est grandiose. Hein. C'est la dernière école de Vienne.
Connaissez-vous la part d'imposture des théories de Freud qui n'a fait que reprendre les théories de son maître Binet à Nancy?
Oui, c'est partiellement vrai. Enfin, c'est-à-dire qu'il a piqué un peu partout chez Charcot, à droite, à gauche. Mais le fond gluant du psychique pulsionnel, ça lui appartient quand
c'est
même en propre.
C'est une invention personnelle. Hein, oui. C'est amusant d'ailleurs qu'il se soit intéressé au cabinet pour construire sa théorie. On va encore me dire que je suis vulgaire et que je fais perdre des abonnés. C'est pas des abonnés, c'est des adhérents.
Des adhérents.
Voilà. Et quand les adhérents ça colle plus, ils s'en vont.
Ils s'en vont, c'est ça.
Un auditeur nous dit, un médecin allemand a donné cette définition de la psychanalyse, c'est une maladie mentale qui se prend pour sa propre thérapeutique.
Oui, c'est que c'est génial. C'est magnifique, ouais, c'est superbe. Voilà.
C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure.
Voilà. Merci beaucoup de nous donner notre dose de guénon. Cela nous manquait.
Ah bah oui.
Et il faut absolument oublier la scandaleuse présence. Et il faut absolument oublier la scandaleuse présence de l'abbé Laguerre la semaine dernière. PS. À propos, qui a dit tu n'adoreras pas Dieu et maman? Ami gnostique.
Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que maman vient faire là?
Maman. C'est dans un mois et demi la fête des mamans. Quelle joie d'entendre quelqu'un dénoncer les dangers de la psychiatrie. On en parle enfin. Merci beaucoup. La psychanalyse.
Parce que la psychiatrie...
C'est J'ai lu un livre de Freud dont je ne me rappelle plus le titre, mais après cette lecture, Freud m'est apparu comme un obsédé sexuel. Qu'en pensez-vous?
Quand on voit sa maison, par exemple, qui est de mauvais goût petit bourgeois, effrayant, là, comment ça s'appelle le style autrichien, la Bild... Vous voyez ce que je veux dire? Bidelberger.
Bidelberger.
Voilà. C'est un truc...
Biedermeier.
Biedermeier, oui, bien sûr. Biedermeier.
Freud, c'était le modèle des pères de famille, hein, à côté de, des insanités qui déversent dans ces machins. Il était, à part qu'il se shootait un peu, c'était, il y avait sa vieille tante qui était là. Donc, l'ensemble baignait dans le BCBG gluant, victorien.
Ouais, petit bourgeois de l'époque.
Sinon, lui-même, il a jamais été arrêté sur le ring en train de courser les petites filles. Hein. C'est pas là que se trouve le danger.
Une auditrice nous dit, la psychanalyse est satanique, c'est une désintégration de la personne, une sorte de confession laïque, une réanimation des désordres sexuels, c'est dangereux et inutile, cela peut déclencher des obsessions irréversibles.
C'est très bien dit, tout ça.
Ça, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, oui.
Vous avez raison, le freudisme est une grande erreur. Confère le livre de Debré Ritzen, Psychanalyse et imposture, et de Rudolf Allers, L'erreur qui a réussi. Mais comment se fait-il qu'il y ait des prêtres psychanalystes? Mais oui, mais je vous dirais comment ça se fait qu'il y ait des prêtres conciliaires aussi.
C'est un vaste problème, comme disait.
Pourriez-vous répéter, ça c'est pour Nicolas, pourriez-vous répéter la citation de Virgile?
Alors, c'est
si
superos flétere nequeo, acquiranta movebo. Ouais.
Si j'arrive pas à faire bouger le ciel, j'irai faire bouger les enfers.
Les enfers. Ouais.
C'est mieux avec l'accent de la voix.
Ça, ça c'est prend vrai. Tout de suite.
Et la taille, parce qu'il y a un côté comme ça.
Acquirontes movebo.
Acquirontes movebo. Bon, le nom du livre de Gautier, on l'a pas, ça.
Non.
Et que pensez-vous de Françoise Dolto?
Paix à son âme, mais en ce qui concerne sa contribution à la psychiatrie des enfants, je dirais pas qu'elle est nulle, elle est nulle, mais en plus, elle a retardé, bien entendu, le traitement des petits-enfants qui sont atteints de diverses maladies, comme l'enfant hyperactif, et c'est extrêmement grave, d'ailleurs, de laisser passer du temps. C'est une psychanalyste pour journaux féminins, quoi.
Je vais citer un cas personnel. J'ai une amie qui est la petite nièce de Bettelheim. Elle s'appelle Claudia Bettelheim. Et elle a entrepris des études de biologie. Et donc, elle m'a dit, en cours, ils n'ont pas arrêté d'esquinter mon grand-oncle en disant qu'il avait laminé des familles entières d'enfants autistes parce qu'il prétendait que c'était les mauvais traitements des parents qui entraînaient l'autisme du gamin. Et donc, il avait retardé le traitement. Donc, le freudisme a été aussi nuisible que le stalinisme, que le nazisme, que n'importe
c'est
quoi.
C'est clair.
C'est une des maladies du siècle.
C'est clair.
Il y a votre confrère et collègue de là-bas.
C'est un camarade.
Il leur met une tartine. Le docteur Planté ne semble pas ce soir, ni jamais d'ailleurs, faire honneur à la faculté de médecine d'Alger, dont il se prévaut quelquefois. Il est logique que ce planteur... Il a une logique de planteur qui lui permet aisément de se planter. C'est joli, ça.
Qu'est-ce qu'il est drôle, des...
Il est drôle, le fils.
T'es drôle, Maurice. Putain, tu n'as pas changé depuis là-bas. Depuis ton certificat d'études.
Non, c'est pas gentil de se moquer. Il est peut-être psychanalyste, vous vous rendez compte, on est en train de faire exploser.
Peut-être. Ça. Peut-être qu'il exerçait place du gouvernement à côté du jeteur de sorts de Haute-Kabylie, hein. Il y en avait, des comme ça, hein.
Voilà. Alors, et puis pour finir, voyez ça. Bravo pour cette émission. La hargne de certains auditeurs montre que le docteur Planté a visé et touché juste. Voilà.
C'est ce qu'on nous apprend en Kinawa.
Alors, est-ce qu'il n'y a quand même rien à tirer, rien à sauver du freudisme?
Si, il y a des choses qui sont fascinantes parce que ça repose quand même sur un occultisme sur lequel je ne m'étendrai pas, mais qui est une vraie démoniologie. Et il y a des visions. Par exemple, quand il dit que le déprimé se dévore lui-même, bon, il est clair que le psychique chez l'homme est capable de nous dévorer, hein, de nous bouffer et d'être destructeur. Ça pourrait très bien s'interpréter en termes de neurobiologie comme l'auto-immunité qu'on observe dans certains états dépressifs. C'est-à-dire, on voit apparaître des anticorps antithyroïdes. C'est extrêmement très intéressant. Et en même temps, tous ces complexes qui ont été décrits par Jung, on sent bien qu'ils en parlent comme si c'était des êtres, des entités réelles. Dans Jung, qui est un pseudo-spiritualisme...
Oui, mais Jung, il y a une espèce de dimension, justement.
Il dit
que c'est des démons.
Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. Donc c'est des démons, des forces psychiques. Seulement, le psychique ne se vainc que par l'esprit, comme le dit saint Paul dans l'épître aux Thessaloniciens, je crois, hein, que l'homme psychique juge de rien, l'homme spirituel juge de tout. Or là... On casse complètement le psychique, le spirituel, et par une abominable transposition, mis sous le psychique.
Mais c'est pas contradictoire, parce que Vous nous avez expliqué à ce micro même, il y a quelques années, je crois, que il y a des produits, des médicaments qui sont efficaces contre des affections qu'on peut considérées comme des affections d'origine démoniaque.
Non, mais c'est clair qu'il y a...
Il y a des produits que les démons ne supportent pas.
Ben, il est évident que l'encens, par exemple, qui est un produit très particulier, qui à très très forte dose entraîne des visions de type mystique, et dont je me suis beaucoup intéressé à cette substance, et j'ai été chercher dans les bouquins sa structure. C'est donc des ubiquinones, c'est-à-dire de très puissants antioxydants, comme la vitamine E. Et il s'agit donc de substances vitalisantes.
Occident OX, Y, hein, pas Rice. Occident.
Voilà, c'est ça, Occident, hein. Oscar X-ray. Hein. Mm. Et ces produits-là, ont une, comme la vitamine E, la vitamine K et toutes ces choses-là, ont des valeurs vitalisantes colossales. L'encens a en même temps des produits anticancéreux, donc c'est un purificateur fantastique.
Vous nous aviez aussi parlé de... des graisses qu'on brûle, l'effet des... Alors, il y a une explication. Moi, ça m'avait fasciné.
Quand
on brûle des graisses, ça provoque, ça dégage quelque chose.
Oui. C'est à propos du livre de Toby. Il faut voir déjà que l'occurrence des graisses, quand on regarde les concordances bibliques, le mot qui veut dire graisse, shemen, en hébreu, revient 5 ou 600 fois, quelque chose comme ça. Et que c'est, par exemple, le support du péché. Ça n'a pas dans le Lévitique. Tu prendras les entrailles du taureau, ils seront brûlés comme support du péché. Or, la graisse garde les traces. En quelque sorte, si la trace du péché est mnémonique, elle est dans la graisse et pas ailleurs. Donc là, la symbolique rejoint la neurochimie. L'histoire de la graisse du foie de poisson, ça c'est dans le livre de Toby. Et c'est l'archange Raphaël que Toby... Toby, c'est pas que... C'est un archange Raphaël, c'est donc la médecine de Dieu. La racine réfoua, c'est la médecine qui a donné thérapie d'ailleurs, hein, par l'intermédiaire du grec. Et quand Toby est agressé par un poisson, l'archange lui dit, garde le foie du poisson, avec le fiel tu feras un médicament pour les yeux de ton père, les yeux de ton père, comme on aurait dit chez nous. et avec le foie, tu le feras brûler pour faire fuir les démons qui torturent Sarah et qui ont tué 7 de ses maris. Hein. Vous savez qu'il va épouser sa cousine. Donc moi j'étais à l'époque dans l'industrie pharmaceutique, j'ai descendu 3 étages pour aller demander aux ingénieurs chimistes qu'est-ce qui se passe quand on brûle du foie de poisson et des graisses. Ils m'ont dit, ça donne de l'acroléine. Et je dis, à quoi ça sert l'acroléine? Et c'est le plus puissant antiparasite, un des plus puissants antiparasites connus. Donc autrement dit, on a cette espèce de mystère entre le diable qui est le ver dans le fruit, qui est le parasite, et la substance qui le fait fuir, qui est un antiparasitaire. Mais on peut voir aussi l'analogie structurelle qui existe entre les antidépresseurs et les vermifuges. C'est les mêmes. C'est des molécules tricycliques qui toutes les deux ont la même action, c'est-à-dire ça chasse les pensées parasites et en même temps ça chasse les parasites. Hein. On pourrait continuer longtemps. Les graisses elles-mêmes, comme les oméga 3 ou huile de lin, sont des protecteurs, par exemple, contre les radiations ionisantes et contre tous les champs électromagnétiques, quels qu'ils soient. C'est probablement une des raisons.
C'est pour laquelle contre le filet de l'oiseleur.
Exactement. Voilà. Surtout si on considère que ce filet est un tissage électromagnétique qui nous met en grand danger.
Donc, ce qu'on peut dire, c'est que Freud a quand même eu, je dirais pas une intuition, mais enfin, une fois de plus, le diable a porté pied.
Oui, parce qu'il a donné, au fond, il a donné une géographie de ce qu'est la pensée de l'homme quand elle est plus dirigée par l'esprit. C'est-à-dire cette psychologie de ce qui dans l'homme est le moins humain, suivant les mots de Alport, qui n'était pas Harvard, il était à Yale, si je me souviens bien. Hein. Il l'a parfaitement décrit. Seulement, il en a fait un mode de vie. C'est ça qui est épouvantable.
Mais ce qu'il fait d'ailleurs, au fond, c'est qu'il interdit... Enfin, en réalité, il assure un rôle de protecteur. Si on imagine que il s'agit de démons qui infestent la personnalité par des mécanismes médicaux, scientifiques, lui, il fait obstacle à toute intervention contre eux.
C'est évident, d'ailleurs.
Il détourne.
C'est sûr, à la fois spirituellement et en même temps sur le plan de la médecine.
Et il se fait le complice.
Ah ben oui.
Est-ce qu'on peut dire sans être ridicule qu'il conseille de céder à ses pulsions?
En quelque sorte, c'est ça.
Faites pipi au lit, mais l'essentiel, c'est que vous en foutiez.
Oui.
Il y a eu un médecin freudien qui a fait beaucoup de mal aux États-Unis dans les années 50. Je crois qu'il a vendu dans les 30 millions d'exemplaires.
Ouais, c'est le docteur Spock.
Le même nom que celui de Star Trek.
Avec les grandes oreilles pointues.
Et comme par hasard, l'éducation aux États-Unis qui se tenait bien à l'époque de Tocqueville ou encore au début du siècle s'est effondrée dans la deuxième moitié du XXe siècle.
En gros, ils disaient laissez les enfants faire ce qu'ils veulent. Après, il y a eu l'autre tendance qui disait battez-les dès qu'ils bougent un cil.
Voilà, c'est ça.
Il doit y avoir un moyen terme.
Le problème, c'est qu'en France, on a 20 ans de retard sur les États-Unis, dont on ne copie que les tares. C'est d'une manière systématique, mais jamais
les
bons côtés, ça c'est clair. On préfère l'Empire.
Est-ce que quand même, Jung, il n'y a pas quelque chose à sauver?
C'est pas mon impression.
Il y a des textes marrants de Jung.
Il y a des textes marrants qui donnent l'impression.
Politiquement incorrect, voilà. Lorsqu'il dit que la femme américaine se trimballe dans la rue comme une négresse parce qu'elle a des gènes et que les Américains adorent claquer des mains et rire en troupe comme un troupeau de nègres dans un village africain. Il écrit ça.
Ouais.
Il est délirant.
C'était en quelle année, ça?
Dans les années 30. 40, mais il est délirant sur la dimension nègre des Américains. Okay. Il est cité par Evola, d'ailleurs, qui par ailleurs déteste Jung pour des raisons traditionnelles, etc. Mais Evola, dans L'Arc et la Massue, je crois, cite plusieurs fois les textes de Jung qui lui vaudraient la 17e correctionnelle immédiatement aujourd'hui, encore plus vite que Guillaume Fay.
Jung avait une pseudo-réputation de spiritualiste. Oui. En réalité, c'est un dieu qui est aussi mécanique que l'inconscient pulsionnel. Ça, il faut lire l'analyse que Frankl, donc il est de l'école existentielle de Binswanger et de von Gebsattel de Vienne. L'analyse est claire et nette. C'est encore une escroquerie de faire passer Jung pour un psychiatre spiritualiste sous prétexte qu'il y a 3 pages de chimie.
Ouais.
Bon. Et il y a une très belle image qui montre ces forces psychiques invincibles, autrement que par l'esprit, pour moi, c'est la lutte contre l'hydre de Lerne.
Mmh.
Les têtres poussent tout le temps quand on les coupe, sauf quand elles sont brûlées, ce qui représente le souffle brûlant de l'esprit.
Alors tu sais que Turing avait 2 machines, une qui s'appelait Hydra et l'autre qui s'appelait Dalila. Turing, là je vais te faire un papier pour le Libre Journal sur Turing parce que c'est effrayant. Donc l'inventeur de l'informatique moderne, puisque bon...
Il est suicidé à la pomme.
On n'a qu'à parler un petit peu de ce projet-là, ça peut être marrant.
Nos cyanures.
Donc je vais préparer pour un éditeur un livre sur Internet et la sorcellerie, la nouvelle économie et la sorcellerie.
Alors on va les grandes lignes de ce livre. Et je dois dire que Nicolas m'a fait découvrir des abîmes de révélations symboliques
sur le réseau.
Oui, c'est... Alors là, et puis en plus, dès qu'on commence à travailler, on est
tous les pères. Enfin, je lisais la création des créationnés Belli de Lactance, ou qui commente aussi cette histoire de lien, de piège et de réseau. Dès qu'on rentre dans l'histoire de, et lui, il te délivrera de l'Oiseleur qui cherche à détruire, du filet de l'Oiseleur. On a la clé. Parce qu'après, de proche en proche, par arborescence, on s'aperçoit, en fait, Saint Antoine le Grand, père des moines, a vu un jour les liens du diable. Il a dit, Seigneur, comment pouvons-nous y échapper, quoi? Seulement, il y en avait.
C'est
mon camarade d'Alger.
Ça tourne à la bagarre de
rue. On est
à l'automatique. Il dit, le docteur en médecine, son petit, il n'est pas un peu niqué de la tête. Je vous jure.
Celui-là, c'est un bossué de chez nous. Hein. Il manie l'Alexandrin. Non, mais
c'est trop mignon.
Ah, ils nous font toujours.
Je ne pensais pas qu'avec François Plantin, on en arriverait à une... Comment on disait? Une bouffa.
Une bouffa.
Une bouffa.
Je voudrais vous faire une petite annonce parce que je vois l'heure qui tourne. Alors, à l'occasion de la mi-carême, le chœur Montjoie-Saint-Denis se produira avec le docteur Merlin chez la mère agitée, 21 rue Campagne Première, dans le 14e, le 30 mars, à partir de 20h30. Réservation au 01 43 35 56 64. Le disque de musique bretonne que nous avons passé tout à l'heure s'appelle Celtique. C'est le volume 2, aux éditions ARB, le numéro AT1437. Arrêtez. Vous n'avez pas parlé du pape, il y a eu beaucoup de messages pour vous en parler. Allez sûrement en parler dans votre journal.
Voilà, j'en parle dans le journal.
Et je voudrais
dire quand même sur le pape que je crois que j'ai trouvé, encore une fois, en lisant la Bible, quoi, il faut lire la Bible, je crois que j'ai trouvé la clé du truc. Je crois que il a roulé tout le monde dans la farine. Et c'est très rigolo. C'est énorme. Une histoire énorme.
Donc pour nos nouveaux auditeurs, si vous voulez recevoir le journal de Serge Beketch, Libre Journal, c'est 4 places front list dans le 10e et vous envoyez un carnet de timbres pour avoir le numéro qui
va
sortir.
Quelle pub pour avoir la plus belle collection de timbres de Paris.
Alors, non, ne vous inquiétez pas, Méliflu, merci à mes fans, Méliflu, ça ne veut pas dire du tout d'une douceur hypocrite, mais
c'est
non.
Ça veut dire qu'il coule
ça
comme
veut
le
dire
miel.
Qu'il y a la douceur et la suavité du miel. Ben oui. Alors, j'ai donc il ne m'a pas dit de méchanceté, il m'a dit des gentillesses. Je peux rappeler toutes les adresses ou je ne les rappelle pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Trois
minutes.
Vous avez encore quelque chose à dire?
Non, parce que ça c'est tellement immense que les nuits,
ça ne suffira pas.
Trois minutes,
Nicolas.
Non,
c'était juste pour dire que Arnaud Guyot-Jana avait publié un petit essai sur la tradition. Donc il n'y a qu'à écrire au Libre Journal, je pense, pour avoir les coordonnées d'Arnaud.
Puisqu'on parle de gnose, puisqu'on gnose.
Alors voilà. Bon, les produits Beljanski, pour obtenir leur revue, vous envoyez un carnet de timbre. Encore à 3 francs, à Ciris, C-I-R-I-S, 16 chemin de Saint-James, J-A-M-E-S, 17550, Dolus d'Oléron. Le voyant que nous avons reçu ce soir, M. Jean-Louis Philippe, vous pourrez le joindre au téléphone au 01-4225-01-34. Les rosaires pour la vie, le téléphone.
Mélangez c'est... pas tout quand même.
Ah bah écoutez, hein, bon.
Non mais téléphonez pas aux rosaires pour avoir une voyance.
Vous demanderez demain, il y aura les... Je les laisserai sur place. Téléphonez demain si vous ne l'avez pas pris. Les rosaires pour la vie, c'est le téléphone 04 75 25 11 88.
Et les petites femmes de Bangkok.
Michel Leguet.
Voilà.
94 boulevard Beaumarchais, 75 011 Paris. Le téléphone, c'est 01 48 46 39 64. Il faut demander Christine. Ça, c'est si vous voulez des renseignements.
Oui, c'est ça, sur le livre. Sur, oui.
Voilà, sur le livre. Monsieur Jacquelin du Parti des Gaulois donnera une conférence le mardi 4 avril à 20h sur le site d'Alésia. Il n'est pas au-delà, non. Ce sera 4 places Saint-Germain-des-Prés. Téléphone pour les renseignements et fax 01 42 26 24 82. Vous savez tout.
Merci beaucoup. Alors, avant de raccrocher, docteur, un peu de publicité. Docteur Planté, vous m'avez soigné dans les années 80. Vous m'avez bien aidé pour une névrose obsessionnelle.
Excellent.
Non, mais c'est pas... En réalité, il dit, vous m'avez bien soigné. Voilà. Pour une névrose obsessionnelle. Il le dit qu'une fois. C'est le professeur... On taquine un peu. C'est pas méchant. J'espère qu'il a compris. D'autant qu'il est guéri. Donc, voilà. C'est le professeur Baruch qui a toute sa vie combattu le freudisme qu'il considérait comme un paganisme qu'il combattait au nom du judaïsme, nous dit un auditeur.
C'était un type très bien.
Un auditeur nous dit, fait cette remarque tout à fait intéressante, contrairement à la philosophie, la psychanalyse ne peut même pas nous consoler de son inutilité.
Exact.
C'est joli.
C'est très beau.
Alors on vous demande votre opinion sur la méthode de Vito, la méthode Vitose.
C'est intéressant pour ceux qui sont pas trop malades.
Voilà. Donc si vous n'avez rien, c'est comme si on a besoin d'un.
Non, on est servi en premier. Non, mais ça c'est méchant parce que c'est intelligent quand même.
Que pensez-vous de l'homosexualité? Alors ça, on peut pas en parler puisque maintenant c'est la prison. Merci à tous, merci de votre présence. À la semaine prochaine. Ah, dans 15 jours, pardon. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8 et pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 29 mars 2000 de 18 à 21h, en différé jeudi 30 mars dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission. Pour le prix global franco de port de 130 francs, ou 95 francs seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Votre gloire est immortelle, volontaires et officiers blancs, et votre agonie cruelle, la honte de l'Occident, et votre agonie cruelle, la honte de
Radio Courtoisie.
Il est 20h57, voici le programme de la soirée de la nuit sur Radio Courtoisie.